l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Il y avait trois matchs à rattraper, comptant pour la 29e journée. Le Paris Saint-Germain a fait le boulot mais n'est pas champion parce que Monaco également à Lille a fait le boulot et a battu Lille 1-0. Monaco probablement dauphin ce soir. Et puis on est passé par toutes les sensations du côté du Vélodrome. OM, Nice, 2 partout. Beaucoup de choses à dire sur ce match, on attaquera par ça. Avec notamment une balle de match dans le temps additionnel de Pierre-Emerick Aubameyang. Tout ça va vous être raconté dans quelques minutes par Virginie Saint-Cily. On aura évidemment toute une soirée basée sur la Ligue 1, on aura un œil évidemment partout, avec notamment donc cette qualification que vous avez suivie, ébouriffante, de l'Atalanta Bergame, 4-1, tout est passé dans le temps additionnel. Et puis, du côté de Liverpool, très mauvaise opération pour les hommes de Klopp, puisque Liverpool s'est incliné du côté d'Everton ce soir en match également à rattraper. J'ai trop parlé, on va faire une petite présentation express de tous nos copains. Le président, c'est Sébastien Tarrago. Dans votre ville-peuple, mon cher Sébastien, Étienne Moati, Olivier Rouillet, Philippe Sanfourche et Raymond Domenech. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
On va commencer avec Virginie Saint-Cily.
Bonsoir.
Bonsoir, Virginie. Séance de rattrapage ce soir. L'OM et Nice, 2 partout. Beaucoup de choses à raconter sur cette rencontre.
Énormément. Le bon travail de Jérémy Boga, déjà, qui a permis à Nice d'ouvrir le score à la 13e. Il percute plein axe, appuie sur Shaw, puis crochette Lopez à l'entrée de la surface. Mofi avait suivi et en profite pour conclure. Jonathan Clauss remet les compteurs à 0 sur un centre d'Enrique dévié de la tête par Thuram. Contrôle poitrine, demi-volée puissante. L'OM obtient ensuite un pénalty pour une semelle de Shaw dans la surface. Il avait pourtant joué le ballon. Aubameyang transforme sans souci. Melvin Mar marque le but du 2-2 d'une frappe de l'extérieur de la surface. Ballon dégagé de la tête par Murillo, directement sur le défenseur niçois. Aubameyang avait la balle de match, oui, au bout du temps additionnel, mais l'attaquant se rate et trouve la transversale. Ballon capté par Marcin Bulka. L'OM est à 8e à égalité de points avec l'OL ce soir.
L'occasion manquée ou le raté, ça va dépendre d'Aubameyang. C'est dur surtout pour l'OM, le raté d'Aubameyang ou l'occasion manquée d'Aubameyang. Est-ce que c'est l'image forte de ce soir que vous retenez de cette rencontre habillage à l'Olympique de Marseille? Et on y va, mes petits, oui ou non? Raymond, vous me dites oui ou vous me dites non?
Oui.
Oui. Philippe Sanfourche?
Oui, mais le raté, c'est dur.
L'occasion manquée? On va changer le liner, mes petits. On est en train de bâtir l'émission en direct. L'occasion manquée d'Aubameyang, merci, regardez, ça a disparu. L'occasion, c'est oui ou c'est non?
C'est oui.
C'est oui? Étienne?
Pour moi, c'est non.
Ah, pour vous, c'est non? Ah bah donc il y a Rix, il y a duel.
Il y a duel.
Président, à vous de jouer, vous regardez la régie, puis vous lancez le processus.
Les coups, hein.
Ah bah on va voir. Mais pour l'instant vous activez le duel.
En régie, ce sera un duel. C'est celle-là, non? Moi aussi je me trompe de caméra.
Sortez de ce corps, Bernard.
Virginie est consternée, mais elle a qu'un truc à faire pendant l'émission, c'est de regarder la caméra.
Mais ça va pas, non?
Sébastien, pas d'embrouille, on se concentre avec Étienne Moati. Étienne, vous l'affrontez qui? L'incroyable Olivier Rouillet, la rouerie Philippe Sanfourche ou l'habile Raymond Domenech?
Il sera désigné par le président, mon adversaire.
Vous voulez voir quoi ce soir? Moati face à qui?
Olivier, tiens.
Ah, voilà, Dolce Gabbana Rouillet contre Étienne Moati.
On ne cite pas.
Ah, non, Pierre Cardin, voilà, et Christian Dior. Merci beaucoup.
Et Selected,
voilà.
C'est très
voilà,
bien.
Merci beaucoup. Jacouille la fripouille, déjà directement, ok. Étienne, vous attaquez, vous ne retenez pas cette occasion ratée d'Aubameyang. On y va.
Non, si on doit retenir quelque chose de ce match, c'est pour moi pas du tout l'occasion ratée, d'ailleurs qui n'est pas vraiment ratée par Aubameyang, parce que c'est une occasion magnifique qu'il se procure lui-même et qui termine sur la barre. Non, moi ce que je retiens ce match, c'est qu'il a été saccagé par l'arbitrage, mais vraiment saccagé, comme beaucoup trop de matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais l'arbitre, Jérémy Pignard, on a l'impression qu'il comprend pas le football, il prend des décisions tout à contre-temps, sans avoir vraiment aucune psychologie et franchement non plus aucune règle de l'arbitrage, parce que l'expulsion elle est extrêmement sévère, le pénalty n'existe pas. Il a saccagé ce match-là. Aubameyang, il a fait un super match, il met une balle sur la barre à la fin, c'est très bien, mais c'est pas ça.
Attention, les 30 secondes sont dépassées, à vous de jouer, vous retenez ce face-à-face.
Tout à fait, donc. Oui, absolument, malgré ce qu'a dit Étienne, que je compatis d'ailleurs pour certains arguments, mais en tout cas moi j'ai pratiquement rien vu de spectaculaire, mis à part le but de Clauss. Le reste, ça m'a pas emballé. La deuxième période, elle est triste. Et on a tout d'un coup un coup de génie. On a quelque chose d'une action performante. C'est-à-dire qu'il prend le ballon, il part du côté gauche, il rentre à l'intérieur, il élimine deux Niçois qui étaient un petit peu en train de rêver. Et ensuite, il vient piquer ce ballon devant le gardien. Malheureusement, on voit le ballon qui est en sort. C'est vraiment l'image forte. Il n'y a que ça qui m'a emballé ce soir dans ce que j'ai vu.
Ok, Étienne a été un peu gourmand, je vous ai laissé finir tranquillement, il n'y a pas de problème, pas d'embrouille, les temps sont respectés. Un arbitrage à la Ménard et pas à la Pignard, j'ai l'impression.
C'est assez laxiste.
Mes amis, on va revenir, on va parler de l'arbitrage, mais pour l'heure, donc vous allez sur le site L'Équipe, vous retenez plutôt le fait du match pour Étienne, ce qui retient, c'est l'arbitrage incroyable de Jérémy Pignard, ou plutôt ce raté, ce face-à-face manqué, enfin en tout cas cette balle de but manquée par Aubameyang. Président, à vous de jouer.
Ouais, Olivier trouve que c'était un mauvais match, si je comprends bien. Je trouve sévère, parce que j'ai passé une bonne soirée. Étienne, lui, trouve que le match a été saccagé. Je trouve ça également un peu fort comme terme. Cela étant dit, je vais donner le point à Étienne, parce que je trouve qu'effectivement, malheureusement, l'image forte qui restera, c'est cet arbitrage calamiteux. Calamiteux de l'arbitre de la rencontre.
Philippe, de toute façon, vous n'étiez pas en
Ah, non, mais de toute façon, tu n'étais pas d'accord, mais c'est pas grave. Ce qui veut donner le point à Olivier, tu peux, mais.
On est sur un sprint de finale de championnat avec des enjeux énormes. L'OM, qui est à 10 contre 11 depuis toute une mi-temps, est à ça de prendre les 3 points. Et que l'action soit magnifique, comme l'a décrit Olivier.
S'il n'y a pas les erreurs d'arbitrage, il est peut-être à ça de prendre les 3 points.
C'est surtout que l'OM fait une transversale à la 87e en étant mené à 10 contre 11 et peut arracher les 3 points et du coup se donner de l'air et aller vraiment chercher son objectif européen. Là, ils sont encore dans une panade pas possible.
Ils sont 8e.
En fait, c'est le fait saillant. C'est ça qu'on retient de ce match, c'est qu'il pouvait l'emporter sur 5 cm.
Le jour où tu seras président, tu pourras avoir le poids nécessaire pour donner des points à Olivier Rouillet, mais là, non.
Est-ce que c'est un argument que vous pouvez recevoir?
Non, mais moi j'ai adoré cette action, évidemment, c'était formidable, mais moi j'ai passé un bon moment devant ce match. Mais malheureusement, c'est pas l'action que je vais retenir. Mmh. C'est l'action la plus émotionnelle, la plus en rapport au football. Donc, bien sûr que c'est ce qu'on préfère. Mais malheureusement, pour moi, le match, il est perturbé par l'arbitrage du soir.
Vous piétinez.
Oui.
Allez-y, Raymond.
Non, mais moi, je vais aller dans le sens de Philippe et d'Olivier. Dans 3 jours, dans 4 jours, les erreurs d'arbitrage, on en a toujours. Mais cette image d'Aubameyang à la dernière minute qui peut-être change la saison de l'OM complètement. Ouais. Se dire si ça, c'est pas le fait de presque d'une saison pour l'OM. Le mec, il est tout seul.
Et en plus, je te rappelle qu'ils sont en demi-finale de Ligue Europa quand même. Donc,
attendez, oui, tiens, laissez exprimer. Ne le prenez pas tout de suite à la gorge.
En plus, dans ce match-là, je veux dire, c'est cette capacité des Marseillais de réagir dans l'adversité, dans la difficulté. Et cette incapacité des Niçois à être cohérents. Et ils jouent pour être européens. Ils sont 5e, 6e, 5e.
Pourquoi pas cohérents?
Ils ont essayé sur la saison. Parce que c'était n'importe quoi les 20 dernières minutes. Il y avait Todibo qui jouait.
Ben, ils ont essayé.
Ils n'ont rien essayé du tout. Ils ont fait du n'importe quoi.
Sur la saison.
L'action d'Aubameyang, il est tout seul. Il prend le ballon sur le
côté. Un contre.
Il y en a eu d'autres d'actions comme ça. Mais c'est pas un contre. Ils sont 4 encore derrière. Ils arrivent à les éliminer.
Sur la saison de Marseille qui bascule sur cette action-là, je trouve ça un peu excessif. Parce que comme je le disais, il y a quand même une demi-finale de Ligue Europa qui va être disputée, donc la saison n'est pas finie, il reste encore des matchs de championnat, c'est une très belle action. Mais auparavant, il y a un face-à-face entre un attaquant marseillais et le gardien, ils peuvent déjà passer devant.
Donc
évidemment, et moi je vous rejoins dans la volonté de célébrer un peu Aubameyang qui fait une saison formidable à Marseille, mais je dirais qu'il est dans la lignée de ce qu'il a fait. Mais franchement, je trouve que l'arbitrage ce soir, mais il gâche le match. Tu as un sommet, tu arrives dans le money time, comme on dit quand on parle bien français, du championnat, et tu te retrouves avec un arbitre qui te met une équipe à 10 sans raison, alors qu'il y a eu des consignes très claires qui ont été données par Anthony Gauthier, le patron des arbitres, de dire maintenant, depuis quelques semaines, si vous avez ce type de décision à prendre, même si vous êtes un peu sûr de vous, eh ben allez quand même vérifier, parce qu'au moins, vous pouvez confirmer et le stade aura vu que vous avez vérifié sur les images.
Mais Étienne, le match n'est pas gâché.
Il va pas regarder et sa décision, elle est complètement
bidon. Mais le match n'est pas gâché.
Faussé. Quand vous dites gâché, c'est faussé.
Bien sûr.
Vous mettez ça,
bien sûr.
Là, faussé. Parce que si ça se trouve, le match aurait été... Alors, on est tout à fait d'accord sur l'analyse de l'arbitrage. En revanche, si ça se trouve, le match aurait été moins bon. à 11 contre 11, ouais,
on peut pas le savoir. Si t'es Marseillais ce soir, tu te dis, mais franchement, l'arbitre, il a joué contre nous.
Hein. Ah bah, non, pas forcément. Après, derrière, il y a
un pénalty. Et comme c'est un mauvais arbitre, en tout cas ce soir, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il vient compenser, comme on le faisait à l'ancienne, n'importe comment. Et là, pour le coup, il vient voir les images. Alors qu'en voyant les images, tu devrais te dire, bon, je me suis un petit peu emballé, finalement, il vient percuter, mais le ballon est déjà parti, il a joué le ballon, il n'y a rien de particulier. Eh ben non, il confirme sa décision.
On va aller voir. On va aller voir Georges Quirino. Georges Quirino est notre envoyé spécial du côté du Vélodrome. Alors, vous avez vu, évidemment, on va dire, ce dramatique arbitrage. Vous, l'image que vous conservez, vous venez de sortir du stade. Enfin, non, vous êtes dans la salle de presse plutôt. Voilà, les images sont apparues. Georges, c'est le face-à-face manqué d'Aubameyang ou c'est l'arbitrage de Jérémy Pignard? Qu'est-ce que vous conservez en priorité?
Moi, je conserve plutôt l'arbitrage. Évidemment, là, ici, quand on est dans le stade, on est un peu dans l'adrénaline de la dernière action. Tout le stade qui s'est levé, comme s'il y avait déjà but, même avant que Aubameyang frappe. Donc, je pense que ce que les supporters retiennent à la sortie du Vélodrome, ça va être cette dernière occasion, ce dernier frisson, finalement, émotionnel dans ce match-là. Mais oui, si on prend un peu de recul, moi, ce que je retiens, c'est également l'arbitrage. Je suis globalement d'accord avec Étienne. L'arbitre, il a une influence trop importante sur le résultat et sur le déroulé de cette rencontre. Le carton rouge qu'il donne à Moubania en première mi-temps. Moi, j'ai l'impression qu'il donne parce que déjà, il a réfléchi à lui mettre un rouge direct sur la première faute sur Kefren Thuram. Et puis après, du coup, on a l'impression qu'il court un peu après ses décisions tout le match, quoi. Le penalty aussi est un peu sévère. Et finalement, l'OM joue toute la deuxième mi-temps à 10. Et ça change tout le scénario du match. C'est-à-dire que le rôle de l'arbitre, c'est pas d'être autant influent sur le résultat d'une rencontre. Donc, moi, c'est ce que je vais retenir ce soir.
D'accord, mais moi, ce que j'ai, c'est pour ça que je dis que c'est pas en deuxième période, excusez-moi, mais les Niçois, ils nous apportent rien dans le jeu. Ils nous donnent que dalle. Ils sont, effectivement, ils sont à 11 contre 10, mais ils sont dominants, mais sans plus. Il y a rien. Il y a pas d'échange dans les 18 mètres. Il y a aucune proposition d'occasion de but. Il se passe rien du côté des Niçois.
Je trouve sévère avec Nice.
Comment?
Je trouve un peu sévère avec Nice.
Ils mettent un but hors jeu.
Non, je trouve. C'est tout, mais il est hors jeu.
Là où je parle, Olivier.
Mais il est hors jeu d'un mètre. Sur
Olivier, là où je partage vos constats, pour quelqu'un qui joue, enfin pour un club qui joue l'Europe.
Mais excuse-moi.
Je les trouve pas morts de faim.
On les voit pas. Voilà, on les voit pas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'image la plus forte.
Alors, bien sûr
que l'arbitre peut-être, et je te rejoins, il est complètement à côté de ses pompes, mais ça n'a pas. C'est pas ce qui a empêché les Niçois de jouer. Je regrette.
Ça a empêché un petit peu les Marseillais à un moment donné,
j'en veux aux Niçois, j'en veux pas aux Marseillais, moi j'en veux aux Niçois parce que le jeu qu'ils nous offrent en deuxième période, pour moi il est insipide.
Oui, mais ça c'est un autre débat, on peut rejoindre là-dessus, mais sur le fait marquant du match, c'est pas... Alors pour le coup, pour toi ce serait donc pas Aubameyang, mais ce serait la passivité des Niçois
parce que par rapport à la passivité des Niçois, tu as quand même ce geste de Aubameyang qui peut donner les trois points, et ça c'est fabuleux.
Il y a votre nouvel ami Georges Quirino, envoyé spécial, qui est pas tout à fait d'accord.
Il a intervenu parce que
Olivier était pas d'accord avec vous. On vous découvre un petit peu, hein.
Non, mais moi je suis pas d'accord avec toi, Olivier, parce que quand tu parles de la passivité de Nice, enfin il faut quand même avoir en tête que le penalty pour Marseille, il est au bout de 7 dans la deuxième mi-temps, hein. C'est-à-dire que les Niçois, ils ont même pas le temps de vraiment prendre cette supériorité numérique et d'installer quelque chose, que derrière ils prennent un coup de bambou et ça change toute la physionomie du match. Derrière, on sent que ils mettent du temps à se remettre dans la rencontre. D'ailleurs, ils ont 5-10 minutes les Marseillais où on sent qu'ils peuvent même en mettre un troisième. Donc pour moi, ça change trop de choses, même dans la psychologie du match des Niçois sur cette rencontre. Donc c'est pour ça que je pense que l'arbitrage a trop d'influence, parce que le pénalty arrive trop vite en deuxième mi-temps.
Sur l'arbitrage de Jérémy Pignard, vous aussi, non, tout le monde est d'accord. Le match est-il faussé? J'ai l'impression qu'il y a Kétienne qui est d'accord avec lui-même.
Ouais, moi je serais moins sévère. En fait, dans ses attitudes, Monsieur Pignard, on sent qu'il est, à chaque fois qu'il prend une décision, il n'en est pas certain. Il la prend, puis après, tu vois sur son visage qu'il n'est pas serein.
Mais le deuxième carton pour Moumbagna, c'est une erreur.
Non, l'erreur qu'il commet, c'est de ne pas laisser l'avantage. parce que les Niçois repartent en contre-attaque, en contre.
Oui, c'est une double erreur. Enfin, c'est,
s'il laisse partir, les deux se relèvent, on n'en parle plus, c'est la 45e minute, c'est fini.
Oui, c'est une double erreur.
Enfin, c'est une erreur sportive pour moi, parce qu'il n'a pas laissé le jeu se jouer. Mmh. C'est même pas une erreur de réel d'arbitrage. Il a voulu absolument siffler quelque chose et après, il est prisonnier. Mmh. Il est prisonnier de son truc, il y a faute, il met le pied par-dessus.
Non, mais il peut siffler faute sans mettre de carton, à la rigueur.
Ouais, mais factuellement, mais là, il a l'oreillette où ils lui disent, il a mis le pied dessus.
Non, c'est lui qui le sort.
Pour lui mettre un jaune, mais il lui met un jaune. S'il estime qu'il y a faute, il lui met un jaune. Il dit, il a mis le pied dessus.
Oui.
Voilà.
Non, donc, c'est un contact. Tu peux siffler faute et sans mettre le jaune.
Oui, mais
franchement, quand tu connais le football, dans ce type d'action, t'es à la 45e, comme dit Raymond, la faute, elle est pas flagrante, en tout cas, elle est pas ultra agressive, etc. Tu sais que le mec a déjà un jaune, c'est pas nécessaire à ce moment-là du match de faire preuve d'autant de sévérité. Et surtout, comme le dit Raymond, que de manière, c'était parti en contre, il va y avoir la mi-temps derrière, et franchement, des bons arbitres, ils prennent pas ce type de mauvaise décision.
Je suis pas d'accord avec ça. D'un point de vue sémantique, c'est quoi un carton jaune? C'est un avertissement. Le premier carton jaune qu'il prend, qui peut déjà être jaune-orangé...
C'est une semelle sur Kefren Thuram à la 27e.
Il lui met un avertissement et lui dit clairement... Il y a trop, tu mets
donc
trop
à chaque fois qu'il y a un avertissement, quand il y a une deuxième faute, c'est un deuxième avertissement.
Il fait une faute qui est bête en plus.
C'est parce une maladresse, déjà.
Oui, mais... C'est un excès d'engagement parce qu'on sent bien que de toute façon techniquement c'est compliqué pour lui.
Donc vous me dites qu'il l'avertit une fois.
Franchement, la deuxième elle est extrêmement.
Non mais attendez, laissez-le finir.
Et dans la logique on est que en première période. Et, je veux dire, il met trop d'engagement une deuxième fois après avoir été averti.
Écoute, attends, moi j'ai parce que c'est sur
moi.
Si c'est un match,
c'est sévère, mais on peut pas parler de scandale.
Tu suis l'équipe de France. Si on est à l'Euro, que c'est à l'équipe de France qu'il arrive que ça. Prendre un deuxième jaune sur ce type d'action et que un joueur majeur d'équipe de France, tu dirais exactement la même chose comme tu es en train de le dire ce soir? Sûrement pas. D'ailleurs, t'en as conscience, on voit ta tête.
Non, pas du tout.
Non, mais ce qu'il faut noter
quand même, moi, ce qui m'agace, ce genre de choses, qui c'est qui est exclu du jeu? C'est un attaquant.
Oui, alors?
Bah, n'oubliez pas toujours que les attaquants, lorsqu'il y a des duels, et souvent, c'est souvent à notre désavantage.
Ah là, les attaquants.
Il y a quand même plus de défenseurs qui sont expulsés que d'attaquants.
Hein. Tu rigoles ou quoi? Nous, dès qu'on est en contact avec
Vous êtes tellement maladroit.
Dès qu'on est en contact. Mais si, je peux vous le dire, parce que moi, je l'ai vécu. Donc, les attaquants le vivent toujours
maintenant. Parce que t'arrives trop en retard.
Non. Ils sont toujours. D'abord, nous, quand on défend un petit peu de travers. On n'est pas toujours aussi nets que vous, les défenseurs.
Vous avez déjà pris un taquet par un défenseur, votre latéral, dont vous aviez plus les idées en place.
Vous moquez de moi, mais croyez-moi, importance de la manière dont les attaquants sont perçus dans le jeu défensif par les arbitres.
Je reviens avec Maître Sansfourche. Donc on a fait le cas Moumania, on n'était pas d'accord et tout ça, il y a eu un petit truc comme ça. D'accord. Là, le pénalty accordé par Jérémy Pignard, donc sur cette faute de Shaw qui dégage, et à la fin de son geste, son ballon, enfin sa semelle retombe sur Balerdi, enfin sur le pied de Balerdi.
Ouais, son pied n'a pas disparu.
Ouais. Non,
il ne s'est pas envolé. Dommage.
Faute, pas faute, pénalty
Il va dire qu'il y a faute.
Mais non, je ne vais pas te dire qu'il y a faute. M. Pinard, en fait, comme on l'a dit, il s'est enfermé dans une logique. À partir du moment où il a sorti un jaune.
Il est cohérent dans ses incohérences.
Ligne, en fait, il sait pour quelle raison il a mis un deuxième jaune.
La première fois, il y a faute.
Oui, il y a faute.
La deuxième fois, alors là, tu peux en siffler 25 par match. Hein. Parce que des contacts après avoir défendu un ballon, peut y en avoir 25 par match. Mais ça va être bien, ça va faire un autre sport, mais pourquoi pas.
Non, mais c'est tellement à l'image de l'arbitrage de cette saison en Ligue 1, en fait, les mecs qui sont complètement paumés, mais complètement paumés. C'est-à-dire qu'avoir ce niveau d'arbitrage... Dans un championnat comme le championnat de France, si c'était le premier, on dirait c'était une mauvaise soirée pour un mauvais arbitre. Non, il y a une telle répétition, c'est franchement incroyable. Et en plus, des consignes leur ont été données qu'il a pas suivi ce soir. Parce qu'il y a tellement de problèmes qu'il a fallu qu'on vire celui qui était responsable de l'arbitrage professionnel.
Stéphane Lallois.
qui soit repris en main, en tout cas momentanément, par Anthony Gauthier, qui est venu donner de nouvelles consignes. Tu me diras, les mecs, ils n'auraient peut-être pas enregistré toutes les nouvelles consignes qu'ils ont. Eh ben, il les a même pas suivies ce soir.
Mais si, personne ne les suit. On parlera tout à l'heure de Monaco.
Non, il les a pas suivies parce que, comme j'essaie de l'expliquer,
3 minutes de la fin.
Attends, oui. Et comme j'essaie de l'expliquer, il leur a été dit que. Ils pouvaient prendre une décision. S'ils voyaient que ça impactait terriblement le match, même si ils étaient plutôt sûrs qu'ils aillent voir les images. Il n'a pas été voir les images.
Mais sur le penalty, il a l'image, il fait comme ça. Il dit c'est moi qui vais voir.
Sur la première, sur le.
Non mais sur le penalty.
Sur le rouge.
Sur le penalty, il dit c'est moi qui le montre. Il le montre du doigt. Il dit c'est moi. On le voit parler et il va avoir du. Ne me dis pas c'est. Alors moi je veux bien. Je veux bien qu'il se rattrape ou n'importe quoi. Et là c'est du vol manifeste. C'est de l'escroquerie ce qu'il a fait. Je regrette.
Non, mais il le fait pas.
Je le maintiens. Non, il peut
Olivier.
M'attaquer en diffamation. Pour moi, c'est.
Non.
Mais vous ne le faites pas.
Non, mais c'est sûr.
Il le fait pas. Mais si tu prends un pénalty comme ça, tu joues plus au football. Je regrette.
Non, mais oui, mais
ça, c'est autre chose. Non, c'est une erreur manifeste.
Tu peux dire qu'il est escroquerie.
Je maintiens. Je maintiens. Même vous pouvez m'enfermer.
Jérémy Pignard, ça.
Et bien, je maintiens derrière et il m'enfermera s'il veut.
Jérémy,
c'est scandaleux.
C'est l'arbitre. L'arbitrage de l'équipe du soir, c'est tout le monde là depuis 15 ans.
Voilà. Il consulte les images pour le pénalty, on le voit. Et on le voit, alors on n'a pas la sonorisation. Il consulte, il se retourne, il valide son pénalty et il fait ça. Donc ça veut dire que lui...
Il estime qu'il a mis le pied dessus.
Il dit contact.
Après, il y a contact.
Non,
regardez, il y a contact là.
Oui.
Et là, il y en a 150 par match.
Oui. Non, mais pour lui, ça va. Non, mais il reste dans sa logique, contact ou pas contact. C'est-à-dire qu'il ne se soucie pas du tout du contexte de l'occasion, de la façon dont c'est.
Par rapport à l'expulsion de la 44e, il est dans le même registre. Il a mis le pied dessus, carton jaune, là pareil.
D'ailleurs, il est arrivé.
Il ne voit pas ce qui s'est passé avant. Le mec, il dégage, il est en bout de course. Il ne peut pas mettre sa jambe dans son dos, il est obligé de tomber.
Il a appliqué le registre sur les semelles, en fait. Semelle, carton, semelle, pénalty, semelle, machin.
Ce qu'on disait tout à l'heure, il est pris dans un style d'arbitrage et il ne peut pas. S'il avait respecter le sport et qu'il avait laissé jouer l'action, 44e, c'était fini. Il n'avait eu aucun problème. Il n'aurait pas été obligé de rattraper le coup avec un pénalty.
Mais il n'a pas rattrapé le coup.
Voilà, impensable quand si ça siffle un pénalty sur un truc pareil. Parce que Seb a raison, il y en aura 50 par match. Chaque fois que dans la surface de réparation, les mecs ils vont dégager.
Du coup, il faudra les travailler, du coup, les pénaux.
Ah bah, ouais.
évidemment, c'est pas la première erreur d'arbitrage de la saison. On n'a pas fait tout l'inventaire, mais chaque week-end, chaque match, pratiquement, il y a des choses à redire sur l'arbitrage. Moi, je pensais depuis le départ de Pascal Garibian et de l'arrivée d'Anthony Gauthier que finalement les décisions du VAR n'impactaient pas la note de l'arbitre. Eh bien, ce que j'ai appris, alors c'est du off, je ne peux pas donner ma source, mais que finalement, quand le VAR intervient, la note de l'arbitre de terrain est dégradée. Ça veut dire que rien n'a changé. Ça veut dire que le VAR rentre en compétition.
C'est
important aussi.
Si le VAR intervient. C'est-à-dire que si le VAR intervient, c'est aussi qu'il y a eu une erreur a priori de l'arbitre de terrain.
Mais quand Anthony Gauthier est arrivé pour dépassionner tout ça, pour éviter le truc de concurrence, c'est moi ce que j'ai appris.
Entre deux choses, c'est-à-dire que si l'arbitre central donc prend des décisions qui sont erronées, qui doivent être corrigées plusieurs fois dans la rencontre par le VAR, il est quand même assez normal que sa note ne soit pas bonne. Parce que si à chaque fois qu'il faisait une erreur, c'est pas grave, ça a été rattrapé par le VAR, c'est-à-dire que ce serait complètement déresponsabilisé.
Oui, mais Michel, on a un effet pervers maintenant. On met en concurrence le VAR, d'où parfois les protections du copain dans le VAR par rapport à tel ou tel arbitre. Ce soir, contre Monaco-Lille, moi, il me semble qu'il y a une faute sur Minamino de Benjamin André.
C'est pas une faute.
Vous parlez pas de la même, je crois.
Non, c'est pas de la même.
Moi, je l'ai noté.
En fin de match,
c'est une faute de Minamino.
C'est de Minamino.
Moi, j'ai une faute sur Minamino de Benjamin André dans la surface de réparation.
Là, c'est juste un courant d'air. L'attentat sur le.
Non, t'exagères.
En tout cas. S'il n'y a pas pénalty sur cette action-là,
je ne sais pas si c'est attentat ou pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a 1-0 pour Monaco, t'es à la 87e, avec un concurrent direct pour la Ligue des Champions. Le mec tombe, c'est quand même très très limite, et M. Turpin, de lui-même, ne va pas voir les images. Donc encore une fois, on est dans un flou artistique total par rapport. Je veux dire, on a tous lu ce que M. Gauthier.
Pardon, vous ce soir vous défendez les arbitres, mais ce soir il y avait péno là pour.
Non, mais je défends pas les arbitres. J'essaie de comprendre leur logique.
Oui, c'est vrai, c'est plus fin.
Que M. Turpin n'aille pas voir les images à la 87e sur quelque chose d'aussi sensible, pour moi, c'est une erreur.
Ben vous voyez, parce que si l'arbitre, si le VAR corrige, la note est dégradée.
Non, ce qu'on
et là, ça passe crème.
Concernant Clément Turpin, ce qui a été dit dans la saison, parce qu'il y a eu d'autres fois dans des matchs où ça a pu arriver, c'est-à-dire que ses assistants VAR ne le solliciteraient pas de peur de fâcher la star de l'arbitrage français en disant « tu m'as dérangé pour rien », quoi, grosso modo. Ouais. Voilà, donc peut-être que c'était ça, mais sûrement qu'il y a eu une intervention de ses assistants VAR et qui lui ont dit « non, c'est bon, tu as pris la bonne décision », et c'est pour ça qu'il n'a pas été voir les images. Mais c'est vrai que dans les recommandations qui ont été faites en cours de saison aux arbitres, c'est de dire, pour dépassionner, et là je rejoins Philippe, si par exemple Clément Turpin va voir l'image et revient en disant « j'ai bien vu », pas de problème, j'ai pris la bonne décision, on continue. Ben voilà, on se dit qu'il a regardé deux fois, donc ça calme un peu le jeu. Il ne l'a pas fait.
Mais ce système-là, c'est un truc, c'est un peu des farces à trappe, c'est un peu de la communication en fait.
C'est
c'est de la communication. C'est un gadget. Peut-être que s'il
on peut le considérer comme un gadget, on peut aussi le considérer comme une manière de dépassionner un petit peu les débats. Et quand vous êtes dans un stade et que vous voyez qu'il y a une décision qui est controversée et que vous ne voyez pas l'arbitre aller vérifier à l'écran, bah vous vous dites pourquoi il ne va pas voir. Donc s'il va voir, ça peut aussi calmer.
Tiens, on a le contre-exemple avec le match de Marseille. Le mec, il va voir. Et il confirme un truc qui est une aberration.
S'il voit mal deux fois...
Nous, quand on le voit partir, on dit, va voir, bon, il va annuler le pénalty, il n'y a pas de problème. Et il revient, et oui, il y a pénalty.
On va appeler ça un entêtement coupable.
Il te dit, il y a contact.
Il y a contact,
oui. Moi, ce que je leur reproche, c'est même pas d'être si souvent mauvais. C'est l'arrogance permanente chez la plupart d'entre eux. Et c'est ça qui est insupportable. Je reviens toujours sur cet exemple, mais quand j'ai commenté la finale de la Coupe du Roi, il y avait un arbitre exceptionnel qui était sympathique, ferme, mais sympathique, serein. Il a pu se tromper dans le match. 3-4 fois, facile, pas de problème. Mais tellement dans l'empathie, dans la compréhension et malgré tout la fermeté, qu'en fait, ça change tout. Et même pour les joueurs, c'est plus agréable. Pour le téléspectateur, c'est plus agréable. Et tout le monde devient plus compréhensif, en fait. Et là, quand tu te comportes, mais ça fait 20 ans que ça dure, comme un petit roquet avec un idéal répressif depuis la plus tendre enfance, ça se passe moins bien, bizarrement.
Sébastien, comment se fait-il que les arbitres... on avait loué l'arbitre, comment il s'appelle, lors d'un match du Real, un arbitre français.
Un arbitre français.
Le Texier.
Le Texier. Voilà, François Le Texier, merci beaucoup, qui avait arbitré le match...
peut-être qu'il est dans un autre climat.
Real City, en Europe. En Europe, ça se passe plutôt mieux.
On a aussi des bons arbitres, il ne faut pas plus exagérer.
Oui.
François Le Texier, c'est un excellent arbitre, c'est-à-dire qui aujourd'hui est reconnu au niveau national, évidemment, mais au niveau international.
Il fera l'Euro.
Voilà, il va faire l'Euro, il va faire aussi une demi-finale de Coupe d'Europe, ce qui sera d'ailleurs le cas aussi de Clément Turpin. Donc, sur les deux meilleurs arbitres français, Turpin, il y a eu des controverses cette saison, mais il n'y a pas que des gens qui ne sont pas bons. Mais c'est vrai que sur l'attitude, d'un point de vue global, je rejoins un peu Sébastien.
Ok, mes amis, on fait juste un petit break. On va aller voir la qualification extraordinaire de l'Atalanta Bergame contre Florence, contre la Fiorentina.
Avec un petit peu de réussite, Scamacca dévie le ballon pour Koopmeiners qui rattrape le retard du match aller dès la 8e minute. Le meneur avance et croise sa frappe pour tromper Terracciano. La Fio repasse devant ensuite à la 68e grâce à Martinez Quarta sur un coup franc bien frappé de Biraghi. Il reprend de la tête. L'Atalanta s'accroche, revient grâce à une sublime reprise de volée acrobatique de Scamacca dans le dernier quart d'heure. Regardez comment c'est fantastique. Lookman donne même la victoire dans le temps additionnel, servi par Scamacca qui a vraiment fait un gros match. Pazalic participe au festival aussi, but à la 99e minute. Score final 4-1. Et finale à suivre, le 15 mai à Rome, ce sera contre la Juve.
Ok. On revient, il y a eu un petit duel entre Olivier et Étienne qui gagne. C'est ce face-à-face manqué que vous retenez ou c'est le niveau de l'arbitrage de M. Pignard? À 70%, c'est un triomphe romain pour Étienne Moati. S'il avait perdu, il aurait quitté le plateau, c'est ce qui m'avait glissé. Ce soir, très mauvaise opération.
Surtout face à Olivier Rouillet, je crois.
Mais je voudrais dire. C'est dans votre contrat. Toujours un petit. Hop, le petit truc en plus, le petit moelleux. Olivier reste. Ok, très bien.
Ah oui,
ce soir, donc, l'Olympique de Marseille fait match nul, perd deux points. Au classement, l'OM est huitième et donc pas européen, voilà, à l'heure où on se parle. L'OM est toujours qualifié pour cette Ligue Europa et affrontera donc jeudi de la semaine prochaine l'Atalanta Bergame en demi-finale aller. Est-ce que cette Ligue Europa doit être maintenant la priorité de l'Olympique de Marseille, sachant que samedi, au Vélodrome, dimanche, pardon, au Vélodrome, c'est l'OM qui reçoit Lens. La Ligue Europa doit-elle être désormais la priorité de l'Olympique de Marseille? Je vous laisse réfléchir. Il y a Jonathan Clauss qui a parlé juste après la rencontre, après ce deuxième match nul de partout, hein, après celui contre Toulouse ce week-end.
Dégoûté, Jonathan Clauss, au micro de Prime Vidéo. On avait les occasions pour tuer le match, malgré le fait qu'on soit à 10. On a tout donné, c'est frustrant. Parce qu'on n'avance pas. On s'arrache sur le terrain, mais on n'avance pas.
Mmh. Donc la Ligue Europa, est-ce que ça doit devenir la priorité maintenant de l'Olympique de Marseille? Habillage à la Marseillaise, et on y va. Raymond Domenech, oui ou non?
Si ça n'a pas été toujours leur priorité, je ne sais pas. Il faut qu'ils s'arrêtent.
D'accord, donc oui. là c'est oui et 100 fois oui.
Bah,
ok.
Oui.
Philippe, oui ou non?
Non.
Non, d'accord. Olivier Rouillet, oui ou non?
Moi, comme... je dirais oui.
Oui aussi. Étienne?
Non.
Non?
C'est pas nécessaire.
Non? C'est pas nécessaire?
Pas nécessaire, pourquoi?
Oui, président.
Trop de caméras, là.
Il y en a trois.
Président, réglez votre caméra, regardez. Là, c'est.
En plus, elle se rapproche les deux.
Ah, ouais, c'est pas parfait. Mal, merci. C'est le jingle.
Super duel. Étienne, vous faites équipe avec Philou Sanforche? Qui
avec
commence?
Plaisir.
Hein? Philou ou Étienne?
Comme tu veux, Philippe.
Ah.
Tu vas commencer.
Allez, j'attaque.
Ok. Raymond ou Olivier?
Olivier.
Olivier? La Ligue Europa doit-elle être désormais la priorité de l'Olympique de Marseille? Oui. Pourquoi? Olivier Rouillet.
Bah comme vient le dire tout simplement Clauss, il n'avance pas. Et en championnat, ça reste très compliqué. Il s'avère que certes, les équipes devant eux ne sont pas extraordinaires non plus. Mais les Marseillais sont à la peine en championnat. C'est la démonstration de ce soir. Et donc la Ligue Europa, c'est quand même une bouée de secours qui est extraordinaire. Et moi, j'estime sincèrement que s'ils le jouent à fond, ce qu'ils font jusqu'à maintenant, et s'ils la gagnent, eh ben, c'est le meilleur passage pour aller en Europe l'année prochaine.
J'ai perdu le fil. Je crois que c'est Philou qui commence, hein, qui contre-attaque. C'est ça ?
Hein ?
C'est ça ?
Si j'ai bien vu le classement, ils sont à un point de Rennes. On sait que la 7e place, si le PSG remporte la Coupe de France, sera européenne. Donc il faudrait qu'ils sacrifient ça. C'est quand même très dangereux de miser sur une victoire en Ligue Europa. L'Atalanta, on a vu que ce n'était pas une petite équipe, donc ce serait très présomptueux. Et puis on sait qu'il y a des dynamiques, c'est soit tu t'améliores dans tous les domaines, tu lâches pas des matchs et par miracle, tu es bon sur celui d'après, ça n'existe pas ça.
Mmh, ok. Raymond, oui, oui et oui, de toute façon ils ne l'ont jamais lâché, c'est-à-dire.
Moi, si ils jouent la demi-finale. S'ils n'ont pas envie de s'investir à fond, s'ils n'ont pas envie d'aller au bout en se disant « il y a le championnat, il faut qu'on gère l'équipe, il faut qu'on mette des... » Déjà, ils n'en ont pas pour mettre au placard avec tous les blessés qu'ils ont. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils sont septième. Le prochain match, c'est Lens. Où ils vont aller s'ils ne vont pas en Coupe d'Europe? Parce que la Coupe d'Europe, c'est plus que juste deux matchs. C'est... une consécration de la saison s'ils sont champions. C'est autre chose.
Ok, une manière de sauver sa saison. 37 secondes, 6e qui a voulu répondre au tandem Rouillet-Domenech, Étienne.
Bah, Raymond, il a oublié le chronomètre. Il a oublié aussi qu'il est membre du conseil d'administration de la Ligue parce que c'est lui qui a voté un aménagement du calendrier des équipes européennes pour qu'elles aient une voie royale pour jouer leur compétition.
Et bah,
pour
justement,
le coup,
d'accord.
Pour le coup, tu n'as pas besoin de faire de choix puisque les matchs de championnat, tu peux les jouer parce qu'ils ne sont pas pénalisants pour ton parcours européen. Donc évidemment, il faut continuer à essayer d'avancer en championnat et évidemment il faut jouer ces demi-finales et évidemment il faut essayer de la gagner, mais il faut essayer de faire aussi une Ligue Europa si tu peux et si jamais tu rates la victoire en Coupe d'Europe.
Ok, oui, vous avez encore 7. Non, Raymond, vous avez utilisé tout votre
Non mais bon, il a c'est sûrement des séances qu'il a dû manquer, c'est pas grave, ça arrive. On peut manquer des matchs quand on est arbitre, on peut manquer des séances du conseil d'administration quand on a un membre.
Ce super duel se termine par un rappel à l'ordre d'un membre du conseil d'administration de la Ligue. On vit des choses terribles.
Et je le revendique, en plus, on l'a voté pour aménager, pour que les clubs français puissent aller loin en Coupe d'Europe. Donc, je veux dire, nous, on leur a donné les moyens d'aller loin, ils ne vont pas la sacrifier quand même.
C'est une précision importante, mais en dehors de votre chronomètre, évidemment.
Je le prends.
Le respect de la discipline. Le site l'équipe. Est-ce que pour vous, maintenant, l'OM, c'est direction et priorité sur la Ligue Europa ou non? Non, il n'y a qu'un point de retard sur Rennes, 41-42. Et non, il ne faut pas bazarder le championnat. Président, À vous de jouer.
Alors, la première chose, c'est qu'on va donner un carton rouge à Mademoiselle Saint-Cyr.
Mais
qui a perturbé, Olivier Rouillet, ouais. Alors qu'il venait juste de tenter laborieusement de développer un argumentaire, n'aura pas le point, parce que je suis obligé de... C'était un chaos. Ouais. Et encore, Olivier a été meilleur que Raymond. Ouais. Mais...
Et nous, on peut mettre des cartons.
Voilà.
La suspension définitive pour moi. Non, mais franchement, ouais, je suis. Étienne, là, il a été bon sur Raymond.
Mais il a dit la même chose que vous.
Mais non, parce que Raymond, toi, tu. Ce que je comprends pas, c'est que toi, tu dis, tu développes l'idée qu'il faut laisser de côté le championnat.
Non.
Bah si. Mais c'est
non.
La question.
Ah mais oui, non.
C'est
la question. Moi, je dis qu'il faut pas laisser le championnat, mais il faut pas abandonner la Coupe d'Europe.
Je pense qu'il peut être champion d'Europe.
Raymond, juste un petit peu, test oculaire. Et la phrase qui est marquée dans le bandeau bleu, est-ce que pouvez-vous la lire, s'il vous plaît, mon cher Raymond? Un petit test oculaire, on y va ensemble, allez. Allez, mon Raymond, on y va.
Oui, ça doit être la priorité de l'OM, puisque c'est vraiment...
La priorité, ça veut dire une priorité, ça veut dire...
Ça veut dire une priorité. Ben, quand on pose cette question-là, si une priorité, ça veut dire qu'on lâche l'autre.
Oui.
Eh ben il lâche la Coupe d'Europe pour faire le championnat.
Non,
je vous retourne le truc.
Mais eux, ils n'ont pas dit ça.
Étienne dit le conseil d'administration de la Ligue a donné les moyens
de faire les deux correctement.
Ouais, mais eux, ils défendent pas qu'ils doivent faire les deux. Ils doivent dire.
Mais si, c'était plutôt clair.
À la prochaine séance, Raymond, il viendra et dira bon, les gars, à la télé, je leur ai dit, franchement, je ne sais pas pourquoi on a fait ça, mais le championnat, ça sert à rien, de toute manière, c'est même pas la peine de les jouer, ces matchs-là. On a mis un bordel sans nom dans le calendrier de la fin de saison, il y a des clubs qui gueulent, etc. Mais je sais pas pourquoi on a fait ça, parce que finalement, ça sert à rien, ils ont qu'à jouer que la Coupe d'Europe.
J'ai pas bien compris. Ils défendaient quoi, eux?
Je crois que t'as pas compris la question.
Pas de priorité. Pas de priorité. On joue la Ligue Europa, on joue le championnat. On joue l'Europe,
T'as pas compris la question et t'as pas compris Étienne. Ça peut arriver qu'on comprenne pas Étienne.
Oui, Étienne, j'ai pas compris tout ce qu'il disait parce que j'ai l'impression qu'il disait ce que j'avais dit.
Okay.
C'est pour ça.
Ok, les petits. Hier, en conférence de presse, il y a Jean-Louis Gasset qui était, on va dire, interrogé par un journaliste en disant « Il vous faut 6 sur 6 pour continuer la course à l'Europe. Même 4 sur 6, donc une victoire dimanche à Lens, ça serait 4 sur 6 et ça serait foutu. » C'est pas du tout votre constat, Philippe. Vous dites qu'ils sont encore à un point ce soir. C'est pas foutu pour l'Europe. Il y a la 7e place. Hein, ça va pas être, ça va pas être la Ligue des Champions la semaine prochaine.
Hein. Donc, ils sont morts au championnat, qu'il faut qu'ils jouent la Coupe d'Europe.
Ils sont un peu obligés quand même. Ils sont, de fait, si c'est simplement le point qui sépare de Rennes, ils sont dépendants aussi du résultat entre PSG et Lyon. On est d'accord, mais ils ne peuvent pas le négliger. C'est-à-dire que on a l'impression que faire de la Coupe d'Europe, je le répète, mais une priorité, c'est quasiment l'assurance d'y arriver.
Non.
Il va quand même falloir sortir l'Atalanta sur deux matchs. Et puis, s'ils y arrivent, après, il y a une finale. Et quand on voit l'autre demi-finale, ça va quand même pas être une partie de plaisir.
Rome ou Bayer Leverkusen.
Bon, je veux bien que jusqu'à présent, ils aient réussi à faire en Coupe d'Europe ce qu'ils ne parviennent absolument pas à faire en championnat, c'est-à-dire remporter des matchs contre des équipes qui sont leur équivalence ou voire un peu plus fort. Mais c'est quand même un énorme pari que de se dire on fait priorité sur la Coupe d'Europe parce qu'on va la gagner et qu'en plus on va se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe comme ça.
Non, ce soir, c'est quand même une mauvaise opération pour l'OM. L'OM réduit à 10. Qu'est-ce qu'on apprend de ce match de l'OM? C'est pas fort, mais il y a un mental quand même extrêmement.
Ils n'ont pas un grand gardien en cette fin de saison quand même. Je sais qu'il a arrêté de tirer au but parce qu'il s'était mis à aller travailler.
Non, mais clairement. Moi, je l'avais défendu jeudi dernier, mais là,
mais,
ce soir.
Mais là, c'est une cata, franchement.
Wow.
Là, ce soir, sur les deux buts. Alors, sur le premier but, les responsabilités sont partagées.
Il y a même eu des situations de relance où il a mis.
Il est pas bien, je
trouve. Les Marseillais en difficulté.
Il est vraiment pas bien.
Mais ce qu'on peut noter quand même, c'est que même à 10, c'est une équipe qui s'accroche, qui est solide. Ils peuvent gagner le match. On a tous l'image en tête d'Aubameyang sur la barre.
La Ligue Europa doit-elle être la priorité de l'Olympique de Marseille? On a eu super duel. Juste après la pause. Eh bien, c'est Jean-Louis Gasset qui va donner son opinion, mes petits. Donc, côté Olivier Rouillet, côté Raymond, côté Étienne Moati. On y va tout de suite.
Retour sur le plateau de l'équipe du soir. La Ligue Europa doit-elle être la priorité désormais de l'OM? L'OM tenu en échec ce soir, 2-2 à Nice. On en parlait donc avec Raymond Domenech, Olivier Rouillet, qui eux, évidemment, disaient, bah oui, maintenant, on met le paquet sur la Ligue Europa. Et puis, Étienne et Philippe, des amis de 30 ans, disaient, bah non, le calendrier a été ménagé par le conseil d'administration de la Ligue. Ils peuvent faire les deux, et c'est ce qu'on leur souhaite. C'est ce que vous avez d'ailleurs conclu.
C'est tellement bien.
Quand vous parlez de l'OM, évidemment, vous êtes extrêmement positif. Je vous ai dit juste avant la pub que Jean-Louis Gasset avait, on va dire, un peu tranché le débat. La question lui a été posée. Écoutez la réponse du coach de l'Olympique de Marseille.
Pas du tout. Pas du tout. Je vois que Lens est à 5 points de nous, qu'on les reçoit dimanche. On va jusqu'au bout lutter. Je ne sais pas où on finira. Je l'avais dit en arrivant. On essayera de faire le plus de points possible. Et après, on verra. Mais on va pas lâcher et ce sera la bonne équipe, l'équipe la moins fatiguée qui va jouer.
Donc on ne lâche pas, on joue les deux tableaux. Le prochain match, c'est dimanche contre Lens, aussi un autre adversaire qui est en lice pour une qualification européenne. Juste rappelons que l'OM, face aux équipes du top 8, il était 9e. Il y a eu 13 matchs cette saison. Il n'y a eu que 2 victoires, une acquise en septembre, une victoire flatteuse contre Brest, une autre contre l'Olympique Lyonnais, qui était à l'époque pas un membre du top 8, mais qui était vraiment largué. C'était le deuxième match de Pierre Sage, contre 8 défaites. 8 défaites de l'Olympique de Marseille. Là, c'est peut-être aussi l'explication d'une non-qualification européenne de l'Olympique de Marseille, mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont, en tout cas, mathématiquement, toujours en course. On file du côté du Paris Saint-Germain, qui a fait le... Pardonnez-moi, résultat du Super 2, j'allais oublier. Étienne, Philippe, face à Olivier et Raymond.
La réalité, j'aurais aimé...
Ah non. C'est pas le jingle de Raymond. Il a été battu 45 avec son ami Olivier Rouillet contre 55.
Oh, même la réalisation, il pensait qu'on avait raison.
Ah, je veux.
C'est ça.
Non, c'est juste qu'il dort.
On a raison.
C'est les membres du conseil d'administration de la Ligue qui ont voté contre Raymond.
Complètement.
On en reparlera dimanche soir.
Voilà, toi, c'est ça.
Après le match de Lens, on verra. Bah,
ils vont tout jouer à fond.
Oui.
Mais ils vont y aller à fond.
Merci Raymond, on a quand même une émission
à faire. Ça s'appelle les 10 minutes pour ne jamais convaincre.
Ouais.
Par Raymond Domenech.
Attends, sur un truc comme ça, vous êtes à 55-45, je veux te dire que vous avez eu chaud quand même.
Restez modeste, monsieur Moati. Voilà.
C'est pas mon genre.
Oui, c'est vrai, c'est pas dans son contrat, en effet. Paris avait une balle de match ce soir. Paris devait faire le job contre Lorient. Une victoire a été acquise, on va voir les images dans quelques minutes. Mais encore fallait-il que Monaco se prenne les pieds dans le tapis. Monaco recevait Lille. Eh bien, Monaco s'est imposé contre Lille. 1-0, but de Youssouf Fofana. J'ai à peu près tout raconté, je suis désolé Virginie.
Non, vous inquiétez pas, c'est une grosse erreur du LOSC qui permet l'ouverture monégasque à la 61e. Boadi rate sa passe pour Gomez, le ballon revient sur Youssouf Fofana qui s'engouffre dans la surface avant d'armer du gauche. C'est puissant, c'est précis et c'est suffisant pour repousser le sacre des Parisiens ce soir. 1-0, ils confortent leur place de dauphin et ils font un grand pas vers la C1 quand même.
Et puis le tarif maison au mois d'avril pour le Paris Saint-Germain, le score à chaque fois c'est 4-1 contre Barcelone contre Lyon et contre Lorient ce soir.
Ça part de Mayulu pour le 1-0, le titillant Ousmane Dembélé à droite à la 19e minute. Puis le talent individuel pour effacer la défense, petite feinte suivie de la frappe qui prend le gardien à contre-pied. Le 2-0 part aussi de Mayulu pour Mbappé qui donne à Nuno Mendes à gauche. Le latéral centre et c'est récupéré par le capitaine. Petite coup de chance quand même, mais c'est dedans. Par contre, la chance n'a rien à voir dans le travail qu'il fournit sur ce but. Il est lancé par Kanginli, il arrive à se défaire d'Adjei avant de servir Dembélé pour son doublé. Mohamed Bamba permet au Merlu de réduire l'écart de la tête à la 73e. Et puis Mbappé enfonce le clou à la 90e, servi par Kolo Muani. Le gardien la touche, mais c'est au fond, ça fait 4-1 pour le PSG.
On va donner la parole à Luis Enrique qui a valorisé cette victoire et qui a fait un petit inventaire. Écoutez le coach du Paris Saint-Germain.
Nous avons fait ce que nous devions faire, c'est-à-dire jouer un match sérieux, prendre les 3 points. Nous avons vu une bonne version de notre équipe, surtout avec beaucoup de jeunes du centre de formation. Et même dans ce contexte, nous avons mérité notre victoire.
Bon, que Paris Saint-Germain s'impose à Lorient, qui est avant-dernier, c'est, on va dire, un train qui arrive à l'heure. Hein. On va pas sauter au mur, je suppose si l'expression d'ailleurs était correcte. Mais en tout cas, on a débouché sur une question, sur une victoire sans enseignement majeur ce soir. Oui ou non, habillage à la parisienne, et on y va. Est-ce que c'est une victoire sans enseignement majeur ou vous avez des enseignements majeurs à nous? Oui ou non, Raymond?
Oui.
Oui. Donc c'est une victoire sans enseignement majeur? Oui.
Il n'y a pas d'enseignant.
Non, c'est l'inverse.
Donc non.
Non.
Vous avez des enseignants.
Il y a du mal avec les questions.
Eh oui.
Ok. Non, d'accord. Est-ce une victoire sans enseignement majeur, oui ou non?
Ah non, pas du tout. Il y a beaucoup d'enseignements.
Beaucoup d'enseignements ou pas d'enseignement majeur?
Si, majeur, oui.
Majeur?
Bien sûr.
Ok. Étienne?
Il y a des enseignements. Ils ne sont pas majeurs.
Ah, bah, donc on a...
Ouais. Oui.
Bah, je sais pas, c'est forcé.
Moi, c'est un peu forcé, non?
Etienne. Non. Ok.
Eh ben, ce sera un nouveau duel. Et encore avec Moiti.
Pas de peau. Etienne.
Pour celui qui m'affronte ou pour le téléspectateur?
Les deux. Voilà, c'est sûr. Vous avez ouvert la porte et bing, faut le coin annuler. Etienne, je repose la question.
Il veut pas choisir.
Vous voulez pas choisir ou je sais pas, une préférence?
Non, choisir.
Non, vous voulez pas choisir, donc c'est le président.
Alors, ce sera Philippe sans fourche.
Ce sera Philippe. Ok, ce sera Philippe. Et c'est une victoire sans enseignement majeur. Etienne. Vous êtes en contre-attaque ce soir, puisque là, il y a une gourmandise. Là, le gourmand Philippe Sorvan lui dit non, il y a plein de choses, trucs intéressants et tout ça.
Enseignement majeur.
Hein.
Ah bah ouais.
Majeur.
Ah ouais.
À vous de jouer.
Pour moi, ce qui est majeur, c'est de voir ce soir que Dembélé confirme que toute la saison, on a dit qu'il faisait des différences, mais qu'il n'était pas capable de les mettre au fond. Il met au fond dans des matchs importants. Là, le match est moins important, mais justement, il est encore là. Et puis, des beaux buts. Et puis Kylian Mbappé, on a fait des émissions ici pour dire il a disparu, ça y est c'est terminé, il a la tête ailleurs. Le match à Barcelone l'a transfiguré, il joue pas une minute contre Lyon, il arrive là, il fait un match de dingue. Ce qu'il a fait contre... Alors c'est Lorient, on va me dire c'est Lorient machin, mais ce qu'il fait sur le deuxième but de Dembélé, si ça avait été Benzema, il y en a qui seraient tout nus autour de la table en train de courir là. Donc,
Ok. Donc Dembélé, Mbappé, ça c'est un enseignement majeur, à vous de jouer.
Je sais pas à quel degré je dois prendre l'intervention de Philippe Sansfourche. Donc l'enseignement majeur ce soir, c'est que Dembélé, il peut faire des dribbles et quand même de temps en temps marquer des buts, mais surtout que Kylian Mbappé, c'est un attaquant de classe, quoi, de classe mondiale. Et d'ailleurs, c'est ses 45e but ou 46e but de la saison, je sais même plus. Donc c'est vraiment, c'est un enseignement majeur, c'est-à-dire qu'il peut marquer des buts, quoi, et des beaux buts aussi. Non, franchement, on avait attendu ce match à Lorient. Non, plus sérieusement, l'équipe type, elle s'est dégagée avant. S'il y a eu des enseignements, ils sont plutôt à la marge. On sait quelle équipe va jouer. Il ne s'est rien passé de particulier à Lorient.
On sait quelle équipe va jouer contre Dortmund. Oui. Si vous avez une idée, ce sera intéressant.
J'ai une idée, oui.
Ouais, vous avez une idée. Dans quelques minutes, on viendra vous voir pour la compo de départ, et dont Luis Enrique, qui a des problèmes, des soucis, comme tout le monde sait. Pas d'enseignement majeur, mais à la marge, dit des enseignements majeurs. Président, à vous de jouer.
Ça m'embête parce que Philippe me fait travailler de temps en temps et que Étienne, franchement, ça m'embête de lui donner un nouveau point. Ça m'embêtait déjà de lui donner le premier. Hein. Mais ça va encore être pour moi, Étienne, cette histoire. Parce que des enseignements, oui, mais majeurs, non.
Ok. D'accord. 4-1, c'est la troisième victoire consécutive sur le même score. Est-ce que vous avez vu ce soir une même impression, c'est-à-dire une cohérence entre Barça, entre Lyon ou des points communs? Je suis désolé, voilà.
C'est l'heure d'aller au lit. Avant, c'était fini à ce temps-là. Donc, il prenait ses petits cachets, il allait au lit.
4-1, est-ce que vous avez la même impression sur le jeu du Paris Saint-Germain ou une impression un peu différente?
Non, sur ce match-là, c'est des exploits. Je veux dire, dans le jeu, pendant un quart d'heure, 20 minutes, Dembélé, il a fait 6 passes à l'adversaire. Mbappé, il mettait les ballons en arrière. J'ai pas senti une équipe qui était conquérante, qui avait pris d'ailleurs, on voyait Luis Enrique sur le banc.
La tête de Luis Enrique.
Voilà, le jeu, il se passait pas grand chose dans leur jeu. Hein, c'était compliqué.
Mais à la 19e minute, le moment où la porte s'ouvre là, où Dembélé a un petit peu d'espace,
oui,
ça fait but.
Ah oui, non mais.
Et là, je me dis tiens, c'est drôle parce que c'est vrai que le match était mal parti,
oui,
mal parti, ça allait ronronner tout ça. Mais ce Paris Saint-Germain-là, le fait d'assommer tout de suite le truc, j'ai retrouvé des choses un peu que j'avais trouvées, notamment de manière beaucoup plus spectaculaire, dimanche contre Lyon. Non ? C'est pas à peu près la même chose ?
Lyon, c'était différent. Ils ont fait opération porte ouverte derrière, sur la première mi-temps. Ils ont voulu aller les chercher loin. Ils ont fait ce qu'a fait le Barça. Enfin, ce qu'avait fait contre le Barça au premier match. Mais, je veux dire, c'est... Il ne s'est pas passé grand-chose avant cet exploit. C'est ce qui transforme le match. Parce qu'une équipe comme Lorient, qui s'accroche, qui joue, qui arrive à créer des trucs pas mal, et qui, sur le premier truc particulier, prend un but, derrière la casquette.
J'essaie de comprendre. C'est dur après. J'essaie de comprendre. Moi, j'ai un peu blagué Philippe, sur Mbappé. J'essaie de comprendre que ça peut être quoi les enseignements majeurs. Parce que moi, j'ai vu des joueurs qui ont joué, qui étaient pour une partie donc des remplaçants, parce que aujourd'hui, l'équipe type du PSG, elle s'est dégagée quand même de manière relativement claire. Et ceux qui ont joué là, c'est pas non plus la performance qu'ils ont faite là qui va bouleverser quoi que ce soit. Celui sur lequel on pouvait avoir pas vraiment un doute, mais sur lequel on fonde beaucoup d'espoir, c'est Gonçalo Ramos, parce que il marque beaucoup quand même. Gonçalo Ramos, il peut être très intéressant.
Ce soir, vous l'avez
il a pas fait un bon match.
Ah non.
Il a pas fait un bon match.
Automatique.
Donc je veux dire, les enseignements, finalement, il reste ceux qui étaient les enseignements d'avant.
Oui. En fait, franchement, moi, c'est comme quand on analyse le match de. Pardon. Vas-y. Comme quand on analyse le match de Kylian Mbappé en Coupe d'Europe, où parfois on est, à mes yeux, trop sévère par rapport à ce qu'il peut produire. Mais quand tu es à ce poste-là, et c'est le cas pour Ramos ce soir aussi.
C'est un peu sacrificiel.
Mais ouais, quand même. Et les autres, ils en profitent aussi de son travail. Donc je trouve pas que Ramos ait fait un match catastrophique. C'est juste ça que je voulais dire. Vas-y.
Il a touché 16 ballons.
On revient quand même sur
16 ballons. Tu sais bien comment ça se passe aussi. Il fixe, il est là. Je dis pas qu'il a fait un grand match. Je dis juste que c'est pas un match catastrophique.
On revient sur notre angle de départ, l'enseignement majeur. Vous voyez quoi comme enseignement majeur ce soir, Olivier?
Mais moi, je suis exactement sur
la ligne politique de Philippe.
Mais c'est évident. Moi, je suis étonné quand même de la façon dont Étienne banalise. Même toi, président.
Pas du tout.
Ben si, vous banalisez.
Ah ben, pas du tout.
Et j'ai bien aimé la réflexion de Raymond quand il nous explique que l'exploit de Kylian sur le deuxième but. Mais je te rejoins totalement. Si c'est
c'est un but fantastique.
Non. Oui, mais ça
quel rapport
paraît,
mais
ça
quel rapport avec que... quel rapport avec la question?
Mais Étienne lui dit il développe qu'il a aucun doute sur Mbappé.
C'est pas la première fois qu'il doit faire ça. Olivier,
on peut pas parler.
Pardon.
La réponse avec la question. Ça veut dire que tu peux toujours compter, même dans des matchs entre parenthèses un peu bidons comme celui qu'on a eu le droit à ce soir de la part du Paris Saint-Germain. Et donc ça veut dire que ça te conforte encore plus que tu as des certitudes avec ces deux joueurs qui sont pour moi extraordinaires et surtout Dembélé, parce que effectivement je banaliserai peut-être un petit peu moins que toi quand même le fait que ce que fait Kylian Mbappé, c'est à chaque fois superbe. Mais moi, ce qui m'interpelle c'est la qualité de Dembélé. Et ça, je trouve que c'est vraiment.
Ça fait un mois et demi qu'on nous explique qu'il est nul.
Non, mais
je comprends pas. Alors, moi, je t'accuse pas, mais ça fait un mois et demi. Moi, j'écoute de temps en temps. Je suis un peu spectateur. Je me mets de côté. J'allume la télévision. Je regarde les présentateurs vedettes avec ses chroniqueurs vedettes et on m'explique depuis deux mois et demi que c'est une pompe. Donc moi je sais pas, je comprends pas.
C'est pas le meilleur joueur du monde.
Que ça soit une pompe.
Effectivement. Je sais pas. On doit pas écouter les mêmes.
Donc je te réponds. Ça sent le règlement de compte interne.
Non, pas du tout. C'est partout.
Non, c'est pas. Enfin, je trouve que.
Non, on est d'accord, je crois, Olivier.
Non, je trouve que votre socle est pas bon. C'est en général quand les gens réagissent en disant c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Voilà. Là, c'est ça la jauge. Pour les gens qui disent, c'est pas le meilleur joueur du monde.
Mais on est.
C'est pour Mbappé. Voilà.
On est en train un peu. J'ai l'impression de sortir de ce qu'était cette question et ce débat. C'est-à-dire qu'on a vu un match qui a été un match, entre guillemets, un peu classique du PSG, qui a fait tourner. Enfin, c'est une équipe relativement faible qui est en très fin de classement du championnat. Et voilà, ils se sont baladés relativement. Et on a vu du très bon Dembélé, on a vu du très bon Mbappé.
C'est quand même ce qui porte un peu le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison.
Sur le niveau global de Kylian Mbappé, on n'est pas là pour faire ce débat-là. Simplement, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait quand même de longs débats pour se dire, après la Real Sociedad, le rassemblement équipe de France, les matchs de championnat,
le
match aller contre le Barça, ça n'allait pas. Il y avait des vraies questions.
Il a mis un doublé quand même aussi en Coupe d'Europe.
Tu as la confirmation.
Ah d'accord, c'est une confirmation que c'est un des meilleurs joueurs du monde.
Non, c'est la confirmation qu'il est focus sur sa fin de saison et qu'il n'est pas perdu.
Mais qui en a douté?
Qui peut imaginer que la situation au sein du club lui pourrissait la vie et qu'il était, malgré le fait qu'il montre une stature, qu'il n'est jamais touché par quoi que ce soit, on a repassé en boucle ses déclarations avant France-Allemagne où il disait « Regardez, machin, est-ce que vous voyez quelqu'un qui doute ?» Sauf que les 5-6 matchs qui suivent, il est donc, objectivement pas bon. On s'est demandé s'il n'y avait pas un problème physique. On est remonté au tacle de Brassier face à Brest. Enfin, je veux dire, non, mais globalement, les débats ont eu lieu. Il y a eu une vraie interrogation sur est-ce qu'on va retrouver le vrai Mbappé avant la fin de saison. Là, on arrive dans le sprint final et on voit qu'il est taquet.
Juste regarder la rivière.
Ça, c'est encore une fois encore heureux qu'il est motivé pour sa fin de saison.
Mais qu'il soit motivé et que ça se traduise sur le terrain par une explosivité et par physiquement une qualité. Pendant 90 minutes, tu l'as vu faire des différences.
On l'a vu
physiquement,
défendre, on l'a vu tacler.
Défendre, tacler.
Il est revenu. Il
je trouve que c'est un enseignement majeur.
Justement, on va continuer de parler de ça parce que j'ai sélectionné Mbappé. Moi, j'ai trois actions à vous montrer. Alors, à vous montrer, on ne peut pas totalement vous les montrer. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais comme vous avez regardé le match, il était à 19h, vous vous en souvenez certainement. 19e minute, c'est Ousmane Dembélé qui marque, qui s'offrira un doublé. Mais c'est son troisième match consécutif où il est buteur. Voilà. Autre enseignement, alors c'est un peu à la marge, mais à la 30e minute, Mbappé perd un ballon et revient, mais comme un malade, tacle Élie Kroupi, voilà. Corner pour Lorient, et là, arrêt fantastique de Donnarumma sur Bakayoko. Là, est-ce qu'il y a des choses, des enseignements qui sont soit à la marge, soit essentiels, soit des petits trucs, quoi, qui
ça va agacer tout le monde, parce que les arrêts exceptionnels de Donnarumma, est-ce que ça, c'est un arrêt exceptionnel?
Fantastique. C'est quand même. Oui. Ah oui, on est d'accord.
Il en fait des comme ça, je veux dire, mais qui peut aussi se trouver en Coupe d'Europe sur des matchs importants, mais sur une saison, il fait un nombre d'arrêts exceptionnels, absolument invraisemblables. Alors, si
c'est pas ça qu'on lui reproche.
Oui, si je dis ça, pour moi, c'est pas un enseignement, mais en même temps, je veux pas le banaliser, mais c'est pas non plus un enseignement.
Ce qu'on lui reproche, c'est pas ça. Ce qu'on lui reproche, c'est son manque d'autorité dans les airs, et son jeu au pied aussi, mais surtout son manque d'autorité dans les airs. Donc là, on n'apprend pas aujourd'hui qui est fort sur sa ligne.
Kylian Mbappé dans l'attitude, parce que parfois, dans sa mauvaise passe, aussi, on critiquait l'attitude de Kylian Mbappé. Ce tacle défensif sur un repli où il va vraiment comme un milieu défensif.
Mais ça, c'est pas un enseignement majeur, puisque ça aussi, visiblement, ça n'avait pas été vu. Mais lors du match retour de Ligue des Champions contre le Barça, le dernier but, c'est lui qui va tacler dans sa surface de réparation. Alors après, on a dit qu'il avait raté le but sur la première frappe. Ouais. Il venait de courir 80 mètres. Mais ça, il l'a fait contre Barcelone. Donc c'est pas un enseignement majeur.
C'est pas un enseignement majeur.
Après, ça arrivera pas tous les matchs quand même.
Dans quelques minutes, on poursuit ce débat. On sera avec notre envoyé spécial Timothée Mémon qui a vu. Est-ce qu'il a vu des enseignements majeurs ou pas? On en parle avec Timothée. Allez, dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. À tout de suite. Les amis, on revient sur la victoire du Paris Saint-Germain donc à Lorient sur le score de 4-1. C'est la troisième victoire consécutive sur le même score. On en parle et Sébastien, juste avant la pause, on peut en parler du jeu un petit peu, évidemment. On va reparler. Attendez Sébastien, on va revoir les images avec Virginie, la victoire 4-1.
Elle n'est pas en prison,
hein. De Mbappé. Non, déjà, l'habillage ne marche pas sur elle. L'habillage ne marche pas sur Virginie. Voilà. On ne peut pas la mettre en
cause.
Et Virginie, 4-1, doublé de Mbappé, doublé de Dembélé.
Et ça part de Mayulu pour le 1-0. Le Titi parisien lance Ousmane Dembélé sur la droite à la 19e. Le talent individuel pour effacer la défense. Petite feinte suivie de la frappe qui prend le gardien à contre-pied. Le 2-0 part aussi de Mayulu pour Mbappé qui donne à Nuno Mendes. Le latéral centre s'est récupéré par le capitaine. Petit coup de chance quand même. Par contre, la chance n'a rien à voir dans le travail qu'il fournit sur le but d'après à la 60e. Il arrive à se défaire d'Adjei avant de servir Dembélé pour son doublé. Mohamed Bamba permet au Merlu de réduire l'écart de la tête à la 73e. Et puis Mbappé enfonce le clou à la 90e servi par Colomoy. Le gardien la touche, mais c'est au fond. Ça fait 4-1 pour le PSG.
Sur le jeu, vous avez remarqué, c'est quoi? C'est un enseignement majeur?
Non, mais moi, je m'interroge sur le jeu parce que depuis le début de saison, j'avais des difficultés à comprendre pourquoi Lucien Riquet voulait le contrôle du jeu avec Dembélé, avec Mbappé. Ouais. Je ne comprenais pas.
Par rapport au profil, c'était contradictoire.
Ouais. Et moi, je trouve que le PSG, en cette fin de saison, il joue comme il devrait jouer depuis le début de saison. C'est-à-dire que c'est une équipe. Et ça, il faut le rendre grâce aussi à l'entraîneur, évidemment. Parce que c'est une équipe, ils sont solidaires, ça se voit. Mais après, tu joues sur tes qualités individuelles pures et dures. Sur Mbappé, sur Dembélé. Et plus ils jouent la transition, plus ils sont forts, en fait. Et la deuxième chose, quand même, c'est qu'en revanche, défensivement, tu concèdes quand même beaucoup d'occasions.
Alors,
même ce soir,
on se tire subi.
Beaucoup d'occasions, quand même. Et c'est quand même quelque chose qui reste dans tous les matchs. Les petits matchs de championnat, les gros matchs de championnat, les gros matchs de Ligue des Champions. Donc ça, c'est peut-être le revers de la médaille aussi.
Ouais, mais ça, c'est pas un enseignement majeur. On le savait depuis longtemps.
Non, un enseignement.
PSG, un enseignement.
C'était juste pour parler jeu.
La fragilité, quand on parle de Donnarumma qui fait des arrêts exceptionnels, ça prouve quelque chose. Normalement, dans une équipe de cette dimension-là, dans notre championnat, Je veux dire, Donnarumma, il devrait faire un arrêt par match, des fois pas d'arrêt. Alors qu'il
fait
et ça lui arrive assez souvent de sauver l'équipe et on le met toujours dans les bons joueurs du PSG, il y est toujours. Alors, donc il y a des vrais problèmes défensifs.
Tu le lis à quoi? Le fait qu'il concède autant d'occasions, tu le lis à quoi? Parce que globalement, c'est une équipe qui court quand même.
Il y a quand même une différence majeure entre les arrêts de Donnarumma en début de saison à 0-0. Là, il est fait, il y a 3-0. Ouais. Donc, que l'équipe concède à 3-0, c'est quand même moins alarmant que quand t'es à 0-0.
Ouais, mais il concède. Ouais, après, c'est l'histoire du foot.
On a 3-0 à l'extérieur, tu peux...
Après, c'est l'histoire du foot. Barcelone, au bout de 20 minutes...
L'arrêt fantastique de Donnarumma, c'est...
On parle pas de la même chose.
Il y a 2-0. Il n'y a pas 3-0, mais il y a 2-0.
Non, mais ce qu'on a constaté la première
mi-temps... Sébastien s'interrogeait, il n'a pas eu sa réponse, j'ai l'impression.
Non, mais parce que c'est pas évident.
Comment se fait-il que Paris concède autant, subit autant de tirs? Est-ce que c'est dans le jeu? Est-ce qu'ils sont trop couverts? Est-ce que c'est une manque de rigueur défensive? Est-ce que c'est des défenseurs qui sont moins bons en un contre un?
Non, mais ils se libèrent complètement. Ils essayent de rejouer derrière.
Ils ouvrent.
Ils ouvrent. Il y a des possibilités. C'est pas une équipe qui est recroquevillée, qui est fermée. Elle donne des possibilités à l'adversaire, mais elle pose des problèmes à l'adversaire. Pour le moment, le rapport, il est dans le sens où c'est eux qui ont les talents, donc ils font la différence. Mais ça diminue quand ils ont des équipes de...
Il manque un peu de méchanceté.
Sur les dernières semaines, ils commencent quand même un petit peu à progresser de ce point de vue-là au niveau du jeu défensif.
Sur la perte de balle, leur comportement.
Leur comportement peu à la perte de balle. Et la stricte ligne de 4 d'un point de vue défensif, elle est quand même meilleure. On l'a vu à Barcelone. Là, on avait quand même Skriniar qui était titulaire, donc qui pour le coup... a énormément de lenteur, revient en plus de blessures. Il y avait des jeunes aussi sur les côtés, etc. C'était quand même beaucoup plus compliqué. Mais quand vous allez avoir la défense qu'on imagine voir jouer face à Dortmund avec Hakimi, avec Lax, avec Marquinhos et Lucas Hernandez et Nuno Mendes, ça a quand même un petit peu progressé. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'occasions, mais quand même un peu moins qu'en
au bout de 20, minutes à Barcelone, je ne suis pas sûr qu'on avait la même analyse. Et... moi, j'adore.
Il y a une balle de 2-0.
J'aime vraiment tout ce qu'on voit. C'est formidable. Mais si on va vraiment chercher les petites choses, je trouve qu'au milieu de terrain, tu peux manquer un peu d'impact. Tu peux manquer un peu de méchanceté au milieu et derrière dans les duels. Ce qui n'empêche pas que derrière, Marquinhos, par exemple, réalise une très belle performance contre Barcelone, mais un peu à l'arrache. Il fait des sauvetages, quoi.
Ouais.
Et on n'est pas dans la maîtrise défensive. Non. Dans le duel, dans la méchanceté.
Tu as raison. Après, sur le match de ce soir, sans Vinicius, sans Lorenzo et Emery, sur l'impact au milieu de terrain, tu sais que de toute façon, tu as perdu deux de tes joueurs majeurs, deux piliers.
Non, mais Zaire Emery est formidable, mais moins bien.
Quelle que soit la défense, il reste un vrai souci, c'est que le but, tu le prends encore, comme ils en ont pris beaucoup, sur un renversement et sur un ballon deuxième poteau, domaine aérien, sur coup de pied arrêté. Tu le sais, en fait, c'est les domaines très précis, très clairement établi, dans lesquels ils n'ont pas encore la main, quelle que soit la composition de la défense.
Mais moi, je ne rejoins pas sur l'amélioration défensive, moi je ne la vois pas. Parce qu'à chaque fois, et que ce soit à le match aller ou au match retour, première à l'accélération des Barcelonais, but. Ça, c'est quand même un fait qui est persistant. Et c'est, à mon sens, pas pardonnable d'une équipe comme Paris qui concède autant d'occasions de but. Ce soir, même si tu dis Vitinha, mais bon... Il n'y a pas de souci, tu joues Lorient. On a vu la qualité de l'équipe. On va pas quand même. L'opposition, elle est pratiquement néante, mais elle n'est pas loin de ça.
C'est un 17e de Ligue 1.
Voilà, on est bien d'accord avec des erreurs de placement, même sur le but de Dembélé, quand vous voyez comment la défense est organisée du côté de Lorient. Excusez-moi, mais bon. Je ne suis pas d'accord à dire que défensivement. Je sens plus de sécurité. Non, j'en suis pas convaincu. Mais alors, pas du tout.
Il partait de très très loin, mais et qui concédait 15 tirs et avec 10 occasions franches. On va dire qu'ils sont aujourd'hui à 12 tirs et 6 occasions franches.
Je reviens sur la discussion qu'on vient d'avoir sur les lacunes, sur les manques, sur les faiblesses du Paris Saint-Germain. Il y a quelque chose d'assez rationnel. On regarde les matchs, on est là, on voit les axes à améliorer. Et puis il y a le côté complètement irrationnel qui arrive, et là on est dans le climat, on se dit que cette année, c'est la saison du Paris Saint-Germain. Vous l'entendez tous, hein, vous croisez des gens, des fans du Paris Saint-Germain.
On l'entend, puis on le voit un peu.
Oui, mais j'aimerais confronter ces deux éléments, cette montée en puissance qu'on constate, ce climat, mais les gens,
je crois qu'en interne, ils se disent ça aussi. Parce que franchement, Au Paris Saint-Germain, après, on réécrira l'histoire après, ouais, et on dira que celui est formidable, que l'entraîneur est le plus grand, que peu importe.
Ça serait bon signe.
Mais oui, mais la vérité, c'est que eux aussi, ils se sont vus couler par le fond. Ils se sont dit, mais là, ça part très très mal, et je me demande comment ça va terminer. Et à un moment,
c'est
quand
quoi,
ça bascule,
Newcastle, du bon côté, Milan, chose comme ça. Mais dans ces moments-là,
il y a ça, il y a les conflits permanents, il y a quand même, le cas Mbappé toute la saison, c'est pas rien. Mmh. C'est, même pour un vestiaire, ça fatigue aussi, même si t'es pas concerné directement. Il y a des amis, il y en a qui l'aiment pas, enfin, oui, etc. La vie, etc. Mmh. Et à un moment, ils se disent, ça bascule du bon côté. Et aussi, ils le sentent, ça. Ils se disent, punaise, c'est peut-être pour nous cette année. Et du coup, ça crée quand même aussi une force. Mmh. Alors, ils sont peut-être éliminés en demi-finale, j'en sais rien. Mmh. Mais eux, ils se sentent aussi habités par cet élan. Mmh. Et ça compte. Ça peut compter, en tout cas.
Vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu, là,
l'environnement du club, les supporters sont totalement derrière l'équipe, l'entraîneur.
Les supporters, moi, j'en croise un, là, je connais, je salue, c'est Kamel. Dès le tirage au sort, avec l'arborescence des quarts de finale, il me dit, ça y est, alors lui, c'est pour nous. Minima la finale et tout ça. Je lui dis, y a l'Atlético. Non, mais... Et lui me dit, non, ce sera Dortmund.
Il y a des choses qui sont.
Le mec est en chaleur.
C'est... On a été les premiers à, je veux dire, Luis Enrique, effectivement, ses compos à Newcastle, le match aller contre le Barça. Moi, il y a des trucs que j'ai toujours pas compris. Je crois comprendre qu'il y a aussi des joueurs dans le vestiaire qui n'ont pas complètement compris. Mais donc ça, il faut le dire. Et c'est pas parce qu'il réussit qu'il faut pas le dire. Mais il faut dire aussi ce qu'il fait de formidable. C'est-à-dire que cette manière d'emmener tout un groupe, de faire que les mecs soient tous concernés, ça a pas existé tous les ans, ça, au PSG. Et c'est pas non plus le fait du hasard qu'aujourd'hui, à l'infirmerie, t'es juste Presnel Kimpembe qui revient d'une très longue blessure. Tous les ans, les mecs étaient sur le carreau au mois de mars, au mois d'avril. Là, il a quand même une gestion de son effectif et une capacité à emmener tout un groupe dans une dynamique commune qui est remarquable.
Raymond, le match de dimanche soir contre l'Olympique Lyonnais, malgré les largesses mises à part de l'Olympique Lyonnais, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est débloqué du côté du Barça. Il y a quelque chose aussi qui s'est débloqué du côté des joueurs avec leur entraîneur. Il a fini par nous convaincre. Est-ce que cette idée-là vous a traversé l'esprit, Raymond ?
Ça, c'est possible. Parce que en battant le Barça, parce qu'ils étaient, après le match aller,
éliminés.
Et ils sont éliminés, ils sont à la rue. Hein, c'est la saison, elle se finit, peut se finir en eau de boudin. Mmh. Et lui, a tenu ce discours, on va être prêt, on est là. Et finalement, il y a un moment de bascule où les joueurs se disent, finalement, il a peut-être raison. Il a peut-être raison. Et oui, avant, il y a des doutes. Ça arrive à beaucoup d'entraîneurs. On fixe un objectif, on fixe un truc. Les mecs, ils disent, ouais, c'est possible, c'est pas possible. Puis les matchs, ça marche pas. Puis tout d'un coup, ça passe. Ils disent, eh ben, finalement, on est bien. Et ça rassure tout le monde en se disant, voilà, c'est le bon chemin. Et sur le bon chemin, on est tous. Et tout le monde grandit d'un coup. Ça, j'y crois. Ce match de Barcelone, on peut dire ce qu'on veut, les circonstances. Mais il a donné, je veux dire, une autre vision de tout ce qui a été fait avant.
Il y a un élan, c'est clair. Philippe le dit, et ça se ressent même dans tout le climat autour du club. Ça se ressent aussi dans l'effectif, dans les joueurs entre eux. Et puis, ils ont, ce que disait Sébastien, quand même, cette petite réussite parfois qui a vraiment fui le Paris Saint-Germain. Mais c'est un plébiscite, clairement.
Arrêtez là.
Du coup, il finit pas sa phrase.
Pourtant, il avait avalé son chapeau. Hein. Le journal de Virginie.
J'avais le chapeau et je n'ai plus faim.
Et on rattrapait notre retard en Ligue 1. On ne voit pas Marseille. 2-2 au Vélodrome contre Nice.
Le bon travail de Jérémy Boga a permis à Nice d'ouvrir le score à la 13e. Il percute Planac, s'appuie sur Chaud. Crochette Lopez à l'entrée de la surface. Mofi avait suivi, il en profite pour conclure. Jonathan Clauss remet les compteurs à zéro sur un centre d'Enrique dévié par Thuram. Contrôle poitrine, puis demi-volée puissante. Boulka touche le ballon, mais ça rentre. L'OM obtient ensuite un pénalty pour une semelle de Chaud dans la surface. Il a pourtant joué le ballon. Aubameyang transforme sans souci. Melvin Barr marque le but du 2-2 d'une frappe de l'extérieur de la surface. Ballon dégagé de la tête par Murillo directement sur le défenseur niçois. Aubameyang avait la balle de match au bout du temps additionnel, mais l'attaquant trouve la barre. Ballon capté par le gardien polonais. Et l'OM est 8e ce soir à égalité de points avec l'OL.
La victoire de Monaco dans quelques minutes, puisqu'on aura un débat sur Monaco qui réalise la bonne opération, est en pôle pour terminer 2e. Monaco fait-il un beau dauphin ? File en Angleterre avec, là encore, une journée rattrapée, la 29e journée. Liverpool a été battu dans le derby de la Mersey par Everton.
Le Goodison Park a exulté dès la 27e minute quand Konaté remet involontairement pour Braithwaite. Le milieu en profite pour tromper Alisson qui touche le cuir mais n'empêche pas le ballon de rentrer. Calvert-Lewin double la mise à la 58e sur corner. C'est frappé par McNeil, c'est récupéré de la tête. Défaite 2-0 des Reds, qui restent deuxième mais qui n'ont plus qu'un point d'avance sur City. Il y a deux matchs en moins et qui se déplacent sur la pelouse de Brighton demain.
Ouais, demain. La finale de la Coupe d'Italie opposera la Juve à l'Atalanta Bergame, dernière équipe donc qualifiée.
Avec un petit peu de réussite, Scamacca a dévié le ballon pour Koop Meiners pour rattraper le score du match aller. Dès la 8e minute, le meneur avance et croise pour tromper Terracciano. La Fio repasse devant ensuite à la 68e grâce à Martinez Quarta. Sur un coup franc, bien frappé de Biraghi, il reprend de la tête. L'Atalanta s'accroche, revient grâce à une sublime reprise de volée acrobatique de Scamacca dans le dernier quart d'heure, c'est clairement l'homme du match. Et Lookman va donner la victoire dans le temps additionnel, servi par qui ? Par Scamacca, évidemment. Pazalic participe au festival aussi, but à la 99e minute. Score final, 4-1. L'Atalanta Bergame rencontrera la Juve le 15 mai à Rome pour le titre.
Julie, dans une semaine, ça sera l'Olympique de Marseille en demi-finale allée de la Ligue Europa. Allez, bon courage, allez l'OM. Coup de théâtre à Barcelone, l'entraîneur Xavi reste.
Retournement de situation, puisqu'il avait confirmé vouloir quitter le club en fin de saison, il a finalement décidé de rester et même de prolonger jusqu'en 2025. Information donnée par la presse locale, confirmée par le groupe L'Équipe. Je rappelle qu'il dirige le Barça depuis novembre 2021 et qu'il a été champion d'Espagne la saison passée.
Plus un, c'est son contrat jusqu'en 2025. Et on passe à Madrid et au tournoi de tennis. Gaël Monfils est éliminé aujourd'hui.
Le Français n'était pas en jambes face à l'Italien Luciano Darderi. Il a commis trop d'erreurs. 21 fautes directes, ne serait-ce que dans le premier set, battu 6-4-6-1. Il sort sèchement dès le premier tour. Son adversaire affrontera lui Taylor Fritz pour la suite. Rinderknecht non plus n'est pas passé contre Shevchenko. En revanche, seule lueur française, la victoire de Luca Van Hache, vainqueur de Zizou Berks, sa toute première victoire à Madrid. Il élimine l'Allemand en 3 manches et s'offre un ticket pour le deuxième tour. Il affrontera l'Argentin Sébastien Baez.
Voilà, bah on le voit là. Voilà, Van Hache, donc il s'impose et file au deuxième tour, comme l'indique évidemment. Le petit bandeau, vous avez entreaperçu Rafael Nadal qui était en conférence de presse, qui a fait l'événement, qui a parlé de Roland-Garros, c'est loin d'être gagné. Hein.
L'Espagnol a été assez franc sur ses doutes, ses sensations du moment, plutôt mauvaises. Et puis pour la suite, Roland-Garros, c'est dans un mois. Il n'a joué que 5 matchs en 2024 et seulement 3 en 2023. On l'écoute.
Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines. Je vais me battre et faire les choses que je crois devoir faire pour jouer à Paris. Si je peux le faire, alors je le ferai. Si ce n'est pas possible, alors ce n'est pas possible. Vraiment, je ne jouerai pas à Paris si je suis dans le même état qu'aujourd'hui. Si Roland-Garros avait lieu aujourd'hui, je ne rentrerai pas sur le court. Et si jamais je ne peux pas jouer à Roland, le tournoi le plus important de ma carrière, ça ne s'arrêtera pas là. J'ai d'autres objectifs, comme les Jeux Olympiques. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, c'est la réalité.
Il nous prépare un forfait, Philippe, là, non ?
Ah bah oui, je crois qu'il est en train de se faire une raison. Alors, il doit espérer au fond de lui-même que les sensations vont revenir. D'un point de vue purement clinique, il est plus blessé, mais on sent qu'il traîne une litanie de douleurs, de difficultés abdominales, articulaires, qui font qu'il ne peut plus lutter avec ce qui est l'essence même de son jeu, c'est-à-dire cette capacité à être dans l'intensité en permanence et sur des matchs en 3-7. Là, c'est aussi une façon de dire au public espagnol, et je veux dire, il a joué à Barcelone, là, il joue à Madrid, il fait ses adieux finalement de visu sur le court, parce que c'est comme ça qu'il veut les faire, mais il prépare les gens peut-être à ce qu'il perdre, là il joue un gamin de 16 ans qui est 1000e mondial, peut-être qu'il va sortir comme ça. C'est assez dur à regarder.
On regardera son match, ce sera demain son entrée en liste au tournoi de Madrid. L'exploit ou la porte pour Monaco en quart de finale de l'Euroleague, une défaite ce soir après prolongation contre les Turcs de Fenerbahçe.
Ils ont pourtant dominé et ils menaient largement à 5 minutes de la fin, porté par les 19 points d'Eli Okobo. Mais ils ont fini par craquer après prolongation et le dernier carré s'éloigne déjà un petit peu. La Roca Team s'incline 91-95 ce soir et va devoir réagir dès vendredi pour espérer rester en vie parce que ça se joue au meilleur des 3 matchs. Donc, en cas de nouvelle défaite, ce sont les Turcs qui rejoindront les demi.
Une victoire française lors de la première étape du Tour de Romandie. C'est une course qu'on diffuse toutes les après-midi.
Coup double même de Dorian Godon qui remporte la première étape et passe leader. Julien Alaphilippe a lancé une première attaque à 10 bornes du but au sommet de la Côte d'Arc-en-Ciel, puis une deuxième à 7 km de l'arrivée. Mais sans parvenir à ses fins, la victoire s'est jouée au sprint pour le coureur de Décathlon AG2R, la mondiale, qui prend la tête du général.
Dorian Godon, donc nouveau leader de ce Tour de Romandie. Le ski alpin marqué par l'annonce d'un grand retour, celui d'une légende de ce sport, Marcel Hirscher. On l'appelle l'Autrichien ?
Alors, plus maintenant, mais c'est la grande annonce du jour. Après 5 ans d'absence, il sort de sa retraite et il va reprendre la compétition. Par contre, sous les couleurs des Pays-Bas.
Bah ouais.
Il avait rangé les skis en 2019, à seulement 30 ans, épuisé physiquement, mentalement, par l'enchaînement des saisons, par la pression aussi liée à son statut de superstar en Autriche. Il avait tout gagné, double champion olympique, quintuple champion du monde, 8 fois vainqueur d'affilée de la Coupe du Monde, 12 petits globes. Et il lance ensuite, quand il arrête sa marque de ski en 2021, marque avec laquelle il ne peut pas skier pour la fédération autrichienne. Voilà pourquoi son retour se fait en tant que néerlandais, les Pays-Bas étant le pays d'origine de sa mère.
Ok, d'accord. C'est du business, c'est de la famille, c'est tout ça. C'est du sport de haut niveau, quoi. D'accord, très bien.
Ça réunit.
Dans quelques minutes, Monaco fait un grand pas, est en pôle pour terminer deuxième. Monaco s'est imposé dans un match, on va dire, pour la conquête de la Ligue des Champions ou la participation en Ligue des Champions la saison prochaine. 1-0 contre Lille. Le but de Fofana est magnifique, on m'en parle. Monaco fait-il un beau dauphin ? À tout de suite. Ou pas ? Habillage ? Ah, on n'a pas la pub. D'accord, très bien, merci. Je pensais qu'il y avait une pause pub. Monaco fait-il un beau dauphin ? Nous sommes toujours en direct. Raymond est là, vous êtes là, mon Raymond ?
Oui, oui.
Oui, Monaco fait-il un beau dauphin ? Oui, non.
Un beau... un normal dauphin.
Donc non. Non,
c'est normal qu'il soit là, quoi.
Ouais.
Non, mais il est beau ou il n'est pas beau ?
Il est beau ou il est pas beau ?
Si, je trouve que ces derniers
oui,
temps...
Mais non, oui, ok, ok, oui, oui. Beau dauphin ou pas Monaco ?
Non.
Non ? Beau dauphin ou pas, Olivier ?
Oui, oui.
Oui ?
Non.
Etienne, non.
C'est un super duel.
C'est un super duel. C'est vrai qu'on aurait, un peu douté de mettre une pause pub comme ça. Donc, alors, nous avons donc notre Etienne invaincu ce soir. Hein. Invincible. Hein. Mais vous, vous êtes avec Philippe Sansfourche. Qui commence ? Philou ? Bon, vous le laissez gambader un peu ?
Fort, en fait, on peut changer avec le pot. Donc, il va démarrer, je vais terminer, on va gagner quand même.
Ah, d'accord. Donc, celui qui va gambader tout nu dans la prairie, c'est Étienne, tout d'abord.
Nous, on est pédards.
Olivier, qu'est-ce qu'on fait ?
Je vais commencer.
Ah, vous recommencez ?
Bien sûr.
Virginie, elle commence aussi ?
Monaco.
Reste tranquille cette fois.
C'était Virginie, etc.
Monaco en pôle pour terminer deuxième. Monaco fait-il un beau. Enfin, je suis complètement perdu. On a vu les images ou pas ?
Ben non.
Non.
Parce qu'on a lancé la pub qui n'existait pas.
Oui, ben là. On les regarde ensemble ?
Pourquoi pas ?
On les regarde, on y va.
C'est une grosse erreur du LOSC qui a permis au Monégasque de marquer à la 61e. Boadi rate sa passe pour Gomez. Le ballon revient sur Fofana qui s'engouffre dans la surface avant d'armer du gauche. C'est puissant, c'est précis, c'est suffisant pour l'emporter et puis surtout pour repousser le sacre des Parisiens ce soir.
Monaco fait-il un beau dauphin ? En tout cas, c'est un joli but inscrit par Youssouf Fofana. 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord, on peut installer l'habillage. Et c'est Olivier Rouillet qui va démarrer. Beau dauphin, pourquoi ?
Eh ben parce que c'est une équipe qui a souffert tout au long de la saison et puis qui depuis pratiquement un mois et demi a retrouvé de bonnes sensations, a retrouvé de la fluidité dans son jeu. Et moi j'ai aimé la façon dont ils évoluent maintenant. Et puis je retrouve que Ben Yedder qui est un petit peu plus présent qu'à un certain moment. Donc tout ça donne de l'ampleur et de la qualité au jeu monégasque. Et moi, je trouve que ça fait un excellent dauphin.
Votre voisin saute pas au plafond.
J'ai l'impression qu'Olivier Rouillet non plus ne sautait pas vraiment au plafond dans sa démonstration.
Ah bon ?
Non, moi, j'ai trouvé que Brest a fait un beau dauphin pour son parcours exceptionnel, pour l'intensité qu'ils mettaient dans leur jeu, pour le mérite qu'ils avaient cet effectif-là d'être deuxième du championnat et de jouer aussi bien. Bon, bah, Monaco, c'est une saison régulière. On a failli virer l'entraîneur. Aujourd'hui, on ne voit pas vraiment une équipe et un esprit qui se dégage de ça. J'ai l'impression que c'est plutôt par défaut qu'ils sont deuxième du championnat.
Ok. Raymond Domenech, beau dauphin, quel est votre inventaire pour accréditer la thèse du oui ?
Moi, c'est la qualité de ce que je vois sur le terrain. C'est une équipe qui est plaisante, qui joue, qui marque des buts, qui gagne des matchs à l'extérieur, qui est solide, qui a totalement étouffé Brest il y a une semaine. Je veux dire, qui impose en plus ce qu'ils n'avaient pas au début, c'est cette solidité défensive qu'ils ont trouvée. Et ils arrivent à construire dessus et à faire un jeu plaisant quand on voit le niveau de Minamino devant. Je veux dire, moi je suis content de les voir jouer. Je trouve qu'ils sont à leur place à l'heure actuelle.
Ok, vous avez encore. Non, votre temps est écoulé. 33 secondes et 3 dixièmes pour Philippe Sansfourche.
Ouais, je pense que rien que sur le match de ce soir, on parle de Minamino. Si on le met du côté de Lille, c'est Lille qui gagne. Le fond de jeu, il est meilleur. Collectivement, Lille est une meilleure équipe que Monaco. Et puis Monaco, et on pourrait avoir ce discours-là pour Marseille et pour Lyon comme tous les ans, avec les budgets qu'ils ont, ils doivent finir le championnat derrière le PSG, mais à 6-7 points, pas à 15. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le boulot, donc c'est pas un beau dauphin.
C'est pas un beau dauphin, ok. Il vous reste encore un petit peu de temps, je consulte. Vous avez encore 12 secondes, Étienne, vous avez des choses à rajouter ou alors au personnel?
Toujours des choses à rajouter, bah, ouais, quand j'ai plus rien à dire. C'est évidemment le dernier argument de Philippe que j'aurais dû prendre à mon compte dès le début, donc il a parfaitement raison. C'est vrai qu'on n'a tellement pas vibré dans ce championnat pour le titre. Au début de saison, on imaginait que c'était possible. Mais maintenant, vous m'avez donné la parole.
Je dis, mais ils regardent pas les matchs de Monaco, c'est pour ça.
Non, mais là, Raymond, là, vous dépassez.
Ah bah, celui du jour, regardez.
Si basse attaque, fausse en plus.
Monaco en pôle pour terminer deuxième. Monaco fait-il un bon départ?
Ça veut dire quoi, ça? Tu dis, Lille, ils sont meilleure équipe que Monaco.
Olivier.
Bah non.
Olivier.
Ça joue mieux.
Non, mais Philippe, il la ramène à la fin. Je réponds à ce qu'il dit.
Mais ne vous inquiétez pas. On aura l'occasion. On aura jusqu'à 1h du matin pour là. Le président demande la parole et il m'a dit ce soir il y a pas mal de perturbateurs, si vous pouvez faire votre métier, et j'ai du mal à le faire, je suis désolé. Sébastien, à vous de jouer.
Plus rien. Je ne me serais pas permis, mais j'aurais peut-être pensé. Mais non, je pense quand même que Monaco pâtit, y compris parmi nous, du fait qu'il ne se dégage rien dans son stade depuis 25 ans, du fait que les joueurs, on s'attache pas trop à eux, ni à son entraîneur d'ailleurs, qui c'est vrai, a failli être viré. Je pense quand même que c'est un beau dauphin. Je pense qu'il y a des beaux joueurs. Minamino, c'est un plaisir de le voir évoluer. Golovin, c'était vraiment bien cette saison.
Caio Henrique aussi,
Manque. Oui, Henrique. Alors, ils ont eu des coups durs et ils s'en sont relevés. Alors, c'est vrai que tout n'a pas été parfait, parce que sinon, effectivement, ils seraient pas à combien, 15 points?
Mais pas 15 points hein, ce soir. Hein. Ils auraient été à 13. Sinon, s'ils étaient à 15 points, il reste 4 matchs. C'est 11 points, je crois, il me semble. Mais on pourra remettre le tableau, si vous voulez, le classement, pour voir l'écart entre Monaco et Paris.
Et quand même, ils produisent des choses. Voilà, il y a un peu un délit de sale gueule avec Monaco que je peux comprendre. Parce que c'est tellement triste. On a regardé sans le son, c'est vrai que ça manque pas le son. Donc c'est comme ça, on a du mal à s'emballer.
Ce qui est décevant, c'est qu'au début de la saison, avec ce PSG en reconstruction, en tout cas, on n'imaginait pas un cavalier seul.
Croyais à Monaco ?
Je crois jamais vraiment à Monaco, parce que comme tu l'as dit, finalement, on s'y attache assez peu à cette équipe. En tout cas, on pouvait imaginer qu'ils pouvaient aller, en tout cas, challenger un tout petit peu le PSG, en tout cas, plus que ça. Là, franchement, c'est une faillite de ce point de vue-là.
C'est le problème. C'est sur l'écart, là. Sur l'écart, c'est leur principal argument. C'est l'argument saillant. Penser que Monaco aurait pu aller challenger un peu plus le PSG. C'est le regret, hein.
Mais est-ce que Monaco traîne? En fait, qu'est-ce qui est attirant en France? C'est Marseille. Alors, PSG, bien sûr. Oui, PSG, c'est Marseille et c'est Lyon. Point, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais je regrette, ça s'arrête là.
Et un petit de temps en temps.
Et puis ?
Et un petit de temps en temps.
Oui, oui, non, mais voilà, il y a tout d'un coup Lens qui arrive. Alors, on est content parce que tout le monde dit que c'est une équipe sympa. Tiens, tout d'un coup, il y a Brest qui arrive. On ne sait pas d'où ils arrivent, on dit que c'est une équipe
sympa. Mais Monaco, c'est...
Mais Monaco, c'est... Alors, on a envie de leur dire, même quand on le dit en déconnant, ils feraient bien de faire le championnat italien. On les met toujours de côté. Et c'est vrai. Et c'est vrai que l'ambiance dans le stade...
Non, mais c'est pas vrai.
Si.
Il y a eu quelques exceptions.
Quand ils ont des Bernardo Silva...
Je te dis pas
tout le monde regardait les matchs de Monaco.
Il faut tous les 15 ans.
Beaucoup de plaisir.
Eh bien, Philippe, depuis Bernardo Silva, depuis l'épopée qu'ils ont fait. Monaco, c'est pas de monde dans son stade, c'est pas de notre faute. Quand tu les écoutes.
C'est un petit peu de notre faute, parce que t'as raison, c'est vrai qu'on s'attache pas trop à cette équipe, mais c'est aussi beaucoup de la leur, parce que franchement, il n'y a pas d'unité dans ce club, il n'y a pas de ligne directrice, franchement, ils poussent pas ce qu'on s'attache à eux non plus beaucoup.
Sur le match ce soir, c'est une victoire de Monaco, elle est méritée ou ça peut tourner? J'ai noté quelques actions, alors j'ai pas tout noté parce que je regardais également l'Olympique de Marseille, vous aussi. Vous dites que cette victoire de Monaco, elle est méritée ou pas? Parce que au début, lorsqu'il commence le match, il y a deux grosses situations, des occasions.
Lille a mieux commencé.
Oui.
Lille a mieux commencé, mais très vite, Monaco a quand même pris le match en main. Et globalement, alors après, on pourra reparler de quelques faits de jeu ici et là.
Bah, des pénaltys, notamment, dont on a parlé il y a quelques minutes.
Mais globalement, Monaco a été meilleur ce soir. Ils auraient pu se faire prendre. Je crois qu'il y a un poteau à un moment. Et ils auraient pu se faire prendre, mais ils ont été meilleurs.
Je me suis demandé si l'élimination qu'a coûté...
Ils ont été meilleurs ce soir.
L'élimination de Lille jeudi dernier contre Aston Villa, à partir de la 60e, Lille a un peu plongé. Non,
ouais, c'est...
Non, je...
Oui, ben, ils n'ont pas non plus le banc qu'à Monaco. Mais je pense que c'est surtout le problème majeur qu'ils ont depuis des mois où ils développent du jeu, c'est cohérent. Et puis c'est posé, c'est construit, il n'y a jamais de...
Mais vous parlez de Lille ou de Monaco, là ?
De Lille. Ouais. Moi, je suis sous le charme de cette équipe depuis maintenant des semaines. Je trouve que contre Villa, ils ont fait une double confrontation qui est passée forcément un peu inaperçue parce que le PSG et Marseille ont fait quelque chose d'émotionnellement fort. Mais dans la qualité du jeu, l'aller-retour contre le quatrième de Première Ligue, je trouve que Lille a montré quelque chose qu'on n'avait pas vu.
C'était en Coupe d'Europe, Philippe, c'était pas en championnat. On parlait du championnat, là.
Oui, mais en championnat.
Oui, mais je l'avais branché aussi sur le championnat, sur le fait que ce soir, il leur manquait un petit peu.
Moi, je trouve que ce soir, ils ont une multitude de situations intéressantes. Et bah oui, bah c'est Haraldsson qui est souvent à la conclusion de ses actions, et bah il les met pas au fond. C'est sûr que une fois ou deux, il a des. Si c'est Mbappé ou Dembélé, c'est étonnant, hein, c'est clair, hein, c'est évident. Alors tout le monde n'a pas Mbappé ou Dembélé, mais je persiste à dire que s'ils ont Minamino ou Hamed avec
Ben Yedder, rate une occasion immense. Immense.
Tu ne m'empêcheras pas de penser que Lille est une plus belle équipe que Monaco.
C'est Chevalier qui l'a sorti.
Ah oui, pardon.
Mes amis, dans quelques minutes, on va se retrouver. Hein, l'émission termine à 1h du matin ce soir. On marque une petite pause. La pub est lancée.
Oui,
la pub est lancée. On y va, on se retrouve après. Oui, là, c'est la vraie. C'est la vraie. On y va. Retour sur le plateau de l'équipe du soir, c'est la dernière ligne droite avec Étienne Moati, Olivier Rouillet, Philippe Sansfourche, Raymond Domenech et Sébastien Tarago. Dans quelques minutes, c'est votre moment préféré, Raymond. C'est le quiz.
Ah, c'est là où je m'en vais.
Non, la dernière fois, vous avez gagné. À l'épuisette.
Ah, c'est vrai, j'ai gagné.
Ce triomphe romain extraordinaire. Et juste avant, un petit coup d'œil du côté de la rédaction de l'équipe, où se trame toujours des choses. Là, vous allez nous présenter la une de l'équipe.
C'est Monaco qui retarde le sacre parisien. On a Marseille et Nice qui ne sont pas plus avancés avec leur match nul de ce soir. Et puis l'incroyable retour d'Hirscher aussi, on en a parlé dans le minuit.
Le néerlandais. Quiz, à présent.
Il faut gagner.
Il y a des choses à gagner.
Oh,
ah oui.
Ah oui.
Ce sont des passes, 4 passes pour le musée du Louvre, l'occasion pour aller visiter l'exposition sur les Jeux Olympiques.
Ok, voilà. Très bien. Ok,
magnifique. Next
magnifique.
C'est sûr.
Et certain. Non, on n'agresse pas le président de l'équipe du soir. Étienne, ce soir, vous avez fait cavaler seul. Vous êtes en tête à
Vendjouza.
Et vous allez avoir, évidemment, donc, les jokers.
Ça, je vous cache pas que j'aime bien ça.
Deux points.
C'est le truc où on peut éliminer des gens. Ça a changé le truc.
Pourquoi t'as des points, déjà?
Non.
Pourquoi t'as des points, déjà? Allez.
On me dit non.
Ils savent pas compter, mais
c'est pas grave. Il y a une fois, t'as été d'accord avec nous.
Non, avec tout le monde, là, à chaque fois.
Non, t'as perdu une fois.
Tu ralentis l'émission.
À l'occasion.
Dès qu'on joue,
à l'occasion d'OM-Nice, j'ai joué à Nice et à l'OM.
Oh là là.
Pour les joueurs. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien. Olivier.
Tu voudrais que ce soit à Nancy, toi?
Non, mais.
Pour 4 points, j'ai joué dans 10 clubs professionnels différents. De qui s'agit-il?
Cyril Roll.
4 points. Cyril Roll, vous êtes éliminé.
Pourquoi pas,
mais c'est pas celui-là.
C'est pas ça.
Je n'ai connu Nice qu'une seule saison, 2015-2016. 10 clubs différents, une seule saison à Nice, 2015-2016.
Germain.
Ben Arfa.
Germain, vous dites?
Oui.
Germain?
Non.
Vous êtes éliminé?
Ah merde.
Ben Arfa, 3 points. Vous ouvrez votre score, Étienne Moati. Ah ouais. Attention, j'ai joué à l'OM et à Nice. Je compte 13 sélections en équipe de France. De Deschamps, si ça peut vous mettre sur la voie. Ouais. Oui, parce que ça peut être un joueur illustre. Je suis formé à Saint-Étienne. J'ai fait l'OM et Nice, mais formé à Saint-Étienne. Et ça vous met sur la voie. Vous réfléchissez ou vous dormez, Olivier?
Non, je réfléchis.
D'accord, ok. On va continuer de dormir. Je compte 13 sélections d'équipe de France. Je suis formé à Saint-Etienne et je suis défenseur central pour 2 points.
Oh, Saliba?
William Saliba.
Bravo!
Et voilà, Raymond.
Putain.
J'ai senti serrer le point, là.
Ah, j'étais...
Raymond a commencé le game, attention, il est
un joueur. T'as une bonne tête de mec qu'on exclut pour le moment.
Alors, ça serait une erreur.
RTT?
Parce que je viens de faire un miracle, j'en ferai pas deux.
Deux, il prend une RTT ou pas?
Bien sûr que oui.
Ouais, c'est oui. Raymond, je suis désolé, voilà. J'ai connu 3 clubs en Ligue 1. Donc, En Ligue 1.
Tu prononces mal, mais.
Ouais, pardon. En Ligue 1. Donc, ouais, mais.
Nice.
Ouais, mais Nice, mais.
Et un autre.
Bon, hormis Nice et l'OM, j'ai joué à Lille.
Cabella.
Non, c'est pas lui. Parce que je suis argentin. Donc, Cabella est pas argentin. Trois clubs en Ligue 1, Nice, OM et Lille. Il est argentin. Bon, allez, pour un point, il est défenseur central.
Mais c'est.
Ouais. Oui. Bah, oui. Je suis sûr que vous l'avez.
Bah, moi, je l'ai, ouais.
Ouais, bah.
Bah dis-le.
Bah alors, vous avez votre joker. Hein.
Voilà. C'est pour un point. Je reviendrai pour plus cher.
Non, c'est pour un point. Un point, vous le. Voilà.
Mais dis-le.
Donc, trois clubs en Ligue 1. Nice, OM, Lille, Argentin, défenseur central, les mecs.
Je le vois.
Pensez à la cage aux folles, Renato.
Si, ah, voilà.
Renato. Oh,
si,
oui. Eh oui, Renato.
Renato. Ma biscotte.
Ça y est, le remake, on est là. Bon, on arrête de beurrer les tartines et on joue. Ok. Alors.
Je pense qu'on l'a perdu là.
OM Nice.
Déjà, il n'était pas franchement concentré jusque-là.
OM Nice. Et en plus, pour 4 points, j'ai quitté la France l'été dernier.
Germain.
Valère Germain, 4 points.
Yeah.
Ne sous-estimez pas Olivier Rouillet, Etienne Moati. Il sort d'où ? Il prend la tête. Voilà. Et il prend la tête.
Oh.
Attention.
C'est la biscotte.
Olivier, est-ce que vous êtes prêt ?
Oui, je suis prêt.
OM Nice. Ok, vous trouvez un joueur. L'OGC Nice est mon premier club pro, formé donc à Nice. Allez, fouillez dans vos souvenirs, mes petits.
Bah oui, mais bon.
Fouillez
Daniel
dans
Bravo,
vos...
allez hop.
Daniel Bravo, allez hop. Comme ça, vous dites Daniel Bravo, allez hop. C'est carrément de la chance.
4 points.
Et c'est 4 points.
Non, oh, bravo.
Il a triché, il a regardé les feuilles.
Oh. Attends, pas, non. Tu ne le connais pas.
Tu l'as vu, hein. Moi aussi, j'ai là-bas. Vu qu'il avait les yeux.
Fais attention, toi, sinon je vais te reparler de quelqu'un dont tu as parlé
Il a joué à l'OM en 98-99. Voilà, c'est pour la précision.
Ouais.
Tiens, on continue. Trouver un autre joueur, mais comme Daniel Bravo, j'ai commencé et terminé ma carrière à Nice.
Ouais.
Comme Daniel Bravo, j'ai commencé.
Éric Croix,
4 points supplémentaires pour Sébastien qui,
bravo.
Qui se réveille, c'est le volcan là.
Ah ouais,
c'est
là.
Pas possible. Attention, dans ma carrière, j'ai écopé de 22 cartons rouges. C'est moi, Olivier Rouillet.
Pilar, tu peux plus me virer, t'as plus.
Ah bah non, c'est.
Mais non, moi j'en ai pas. Donc.
J'ai disputé 6 finales de Ligue des Champions. Et j'ai joué à l'OM et à Nice. Et le gars a disputé 6 finales de Ligue des Champions.
C'est vrai.
4 points pour Sébastien Tarrago. Il était à Nice entre 2000 et 2002, puis on se souvient de ses années OM avec son Mawashigiri.
On l'avait oublié, ses années niçoises.
De la Ligue Europe. Ah oui.
En D2.
Le dernier pour la route. Je suis formé à l'OL. Donc j'ai fait l'OL, et j'ai fait au moins Nice et au moins Marseille. J'ai fait au moins 3 clubs, mais le gars a joué dans pas mal de clubs. Pour 3 points, j'ai pris ma retraite il y a 6 mois. Le gars revient souvent dans les quiz, hein, parce que le gars a joué beaucoup. Hein. Pour 2 points, j'ai joué en France, en Angleterre, en Espagne, en Turquie. Et comme il a pris sa retraite il y a 6 mois, le dernier indice va peut-être vous mettre sur la voie. Je suis passé par Brest la saison dernière.
Ah, c'est Loïc Rémy.
Loïc Rémy, 1 point supplémentaire.
Oh, ouais.
Bon, bah là, voilà. Le quiz était super.
Mérité,
franchement. Hein,
désolé, Virginie.
On vous embrasse, mes petits. Demain, la maison est ouverte.
Je pense qu'il a une passion pour toi.
Il y a une passion Virginie, là. Clairement, il y a une passion Virginie, là.
Je conclue, je te dis, puis après, vous allez s'en avoir un petit peu, là. Vous allez continuer la soirée. Mais là, je suis rapide, on me dit, bonne soirée. Et puis voilà, on vous donnera des nouvelles du petit couple, là, qui est en train de mettre.
Allez,
c'est
pas sûr.
C'est pas sûr.
À demain, on sera là, nous aussi.
Mal aux oreilles.